à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring.
Wouhou!
Au loto. Au loto, on dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce week-end, à Budapest, 100% des perdants ont aussi tenté leur chance et se sont bien plantés dans leur thématique poker digne de Patrick Bruel. Et pendant ce temps, c'est notre homme bicentenaire, Jenson Button, qui gagnait. Mais en même temps, dès que le temps est pourri, il gagne. Donc c'est normal.
C'est vrai.
Pour m'accompagner, comme d'habitude, vous l'avez entendu, puisque vous le savez, hein, c'est un peu sa Madeleine de Proust. Hein. Bonjour Dino.
Bonjour Chidi.
Alors tu es content? Et on pourra pas te dire qu'il ne passe rien en Hongrie.
Voilà, non mais tout à fait.
Hein, voilà.
Ça a été un Grand Prix de Hongrie comme je les aime. Même si je suis déçu parce que du coup les gens disent « Ah, celui-là était passionnant, ça m'énerve. » Parce qu'ils sont tous intéressants, merde.
Oh, t'aurais quand même préféré mieux, que ce soit passionnant et que Ferrari gagne.
Non, parce que globalement le podium me plaît très bien. Donc.
Et alors Dino, je vais te poser la question comme toutes les semaines, Dino. Quel est donc notre guest?
Eh ben, je sais pas. Non.
J'aurais dit qui est donc.
Oh, c'est pas prouvé. On n'a pas de preuve. D'où vient-il? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est très fort au concours Top Position. Et que ouais. Ce soir, il a un défi.
D'ailleurs, tu penseras envoyer le chèque.
Oui, c'est vrai.
Oui, pour l'imprimante d'Enzo, surtout.
Oui, c'est vrai que toi, t'as gagné une ancienne version. Tu gagnes tout le temps. Mais avec un défi pour toi, Globen, aujourd'hui. Essayez de finir l'émission.
Parce que, on va essayer.
Parce que t'as participé, je crois que c'est à l'émission anniversaire l'an dernier, que tu n'as malheureusement pas pu terminer, laissant Sato Kamika se défendre seul bravement face... C'était qui en face, d'ailleurs?
C'était pas le 153.
Ah, c'était le 153, oui, effectivement, oui. Et donc, effectivement, on l'a reconnu, c'est Globen que nous recevons ce soir, l'un de nos plus vieux, mais l'un des plus jeunes, mais l'un de nos plus vieux, quand même, auditeurs.
Ben, merci et...
L'espèce de Sébastien Vettel du SAV, hein, parce qu'il gagne quand même vachement beaucoup.
Ouais, peut-être pas autant.
Oui, c'est vrai que tu es en petite perte de vitesse en ce moment.
Ouais, surtout au Fantasy, là, j'ai plus touché depuis. Voilà. Et donc, bonsoir à tous.
Ah, et donc, forcément, première question, première impression, mais déjà, on a pu le percevoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette magnifique course de Hongrie? Surtout, ces 10 premiers tours. Et aussi la fin. Et en fait, aussi le milieu. Donc, en fait, un peu tout.
Il y a eu une petite partie un peu molle, hein, quand même, au milieu.
Au milieu, ouais.
Mais globalement, oui, c'était bien animé, et je dirais même presque un peu illisible de temps en temps.
Ça s'est beaucoup joué à la stratégie.
Ouais, on comprenait pas trop, des fois. Notamment ouais. Sur l'abandon de Schumacher, là, on a rien vu.
Ah oui, il est sorti vraiment en catimini. On a eu une petite image pendant 2 secondes.
C'est dommage.
Est-ce qu'on sait, tiens, d'ailleurs, Dino de
quoi... Je crois que c'est un problème de boîte. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un problème de boîte.
Ah, oui, c'est pour ça qu'il a abandonné, lui, sans rien exploser.
Oui. Ce week-end. Alors, en plus, il a dit qu'à un moment donné, il est parti en tête à queue dans sa bataille avec Massa. Il a dit qu'en fait, il était parti en tête à queue parce qu'il avait un problème et que, contrairement à l'an dernier où il avait failli foutre Rubens Barrichello dans le mur, par accident. Là, il avait pas envie avec Felipe, ouais. Donc il est parti en tête à queue pour éviter un accident avec Felipe. Tu vois, le mec dit, oh, je vais taper Felipe, hop, tête à queue. Mais sinon, sur la course, c'est vrai que je rejoins un peu ce qu'a dit Globen. Honnêtement, sur le début, je me suis revu un peu au Nürburgring. Il y a une course pas forcément inintéressante. Je sais que on a reçu un message nous disant « Ah ouais, j'étais étonné, vous manquiez d'enthousiasme sur le Grand Prix d'Allemagne. » C'est pas que le Grand Prix d'Allemagne, on l'a jugé mauvais, c'est juste que voilà, c'était un Grand Prix très passionnant, très haletant. Maintenant, il n'y a pas eu non plus extraordinairement d'action en piste, et c'était le cas aussi au tout début de course sur le Hungaroring, où franchement, une fois que Hamilton avait passé Vettel, bon, il s'est plus passé grand-chose, quoi.
What? Voilà, il s'est passé énormément de chance sur 10 tours, et en effet, comme tu dis, dès qu'Hamilton passe devant, c'est là qu'intervient cette période un peu mou.
Molle.
Molle. Jusqu'aux arrêts au stand, où là, ça s'est joué la stratégie. Et avec vraiment des possibilités de stratégie différentes, et il n'y avait qu'une solution au problème.
Mais ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a vraiment vu 2 vagues stratégiques. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu le choix qu'ont fait Alonso et Hamilton de mettre des pneus super tendres là où les autres passaient
super
en tendre.
Ouais.
Donc il y avait déjà un pari stratégique à ce niveau-là. Et ensuite, il y a la pluie qui a obligé les équipes à se réadapter une deuxième fois et à faire un deuxième pari.
Et le fameux pari intermédiaire.
Voilà.
C'est pour ça que je parlais des gagnants et des perdants, c'est que finalement les deux premiers sont ceux. Alors le fait de passer les softs, c'est un choix, c'est aussi un choix. Il a pu après tout continuer sur les super softs, hein, il le pouvait. Mais finalement, voilà, ceux qui ont fait des paris, ça a pas marché, et finalement, ceux qui sont arrivés devant, c'est ceux qui ont été peut-être les plus conservateurs.
Je suis pas sûr que ce soit conservateur, c'est quand même un pari.
Bah, voilà. Mais en tout cas, qui ont fait moins d'arrêts.
Voilà.
Par le fait d'avoir choisi le soft au lieu du super soft.
Oui, c'est parce que les tendres sous la piste humide, c'était pas gagné non plus.
Nous étions donc le 31 juillet.
Ah, merde. C'est la semaine dernière qu'il fallait venir, Globen, on est désolé.
Mais ce qui est bien, c'est que c'était rare pour ça.
Oui.
Hein, je vais pas le refaire toutes les semaines. Comme ça, la prochaine fois que je le ferai, vous serez encore super heureux.
Ça m'obligerait sinon toutes les semaines à le trouver en 15 secondes, ça m'énerverait.
Donc, nous étions le 31 juillet.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. c'est pas drôle en fait.
Et donc nous allons revenir au 31 juillet 1914.
Ah.
Oui, j'ai dit une chose pas trop vieille, on va dire. Avec bon un événement triste, un assassinat. L'assassinat de Jean Jaurès à Paris, donc leader communiste, c'est le fondateur de l'Humanité, hein, du journal L'Humanité. On a même dit lui que finalement c'était peut-être la première victime de la première guerre mondiale, puisque elle va être déclarée le lendemain.
Ouais.
Mais bon, le Grand Prix n'avait pas lieu le 1er août, donc on parle du 31.
Mais c'est aussi un symbole, Jean Jaurès, parce que c'est un pacifiste. Enfin,
C'était un pacifiste. Oui.
Il appelait vraiment à trouver des solutions diplomatiques, et sa mort, finalement, c'est pour ça que la guerre se déclenche le lendemain, c'est un gros symbole, c'est que finalement, sa mort, c'est la mort du dernier rempart pacifiste. À partir de ce moment-là, c'est vraiment la marche de la guerre, il n'y a plus d'autre alternative.
Plus proche de nous, en 1959, c'est la création de l'ETA. Un groupe armé à l'origine anti-franquiste et séparatiste. Bon, alors, le franquisme, il n'y en a plus, mais il est toujours séparatiste.
Ça n'est pas un thème spécial pacifiste, alors.
Non, pas spécialement. Non. Le 31 juillet 1971, les astronautes américains de la mission Apollo 15 effectuent une excursion de 6h30 à bord du fameux rover lunaire, fameux véhicule à quatre roues, si je me souviens bien, qui permettait de se déplacer. Alors, je crois que c'est une fabrication de la NASA, hein. C'est pas un constructeur automobile qui l'a fabriqué. Le 31 juillet 1974, et là on peut dire que c'est quand même un peu de pacifisme, bon, c'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Grecs et Turcs sur l'île de Chypre.
Mais c'est pas qu'un peu de pacifisme.
Oui, la fameuse ligne verte, hein, donc qui divise Chypre du Nord... domination turque et Chypre du Sud, indépendant à influence grecque. Le 31 juillet 1985, le gouvernement français autorise la création de chaînes privées de télévision gratuites. Canal Plus existait déjà depuis 84, et donc l'arrivée de la 5, de M6. Le 31 juillet 1991, et c'est aussi de la paix. Donc comme quoi, un peu, c'est un peu un thème. Signature à Moscou du traité START entre l'Union soviétique et les États-Unis, prévoyant une réduction de 30% des armements nucléaires stratégiques.
Quand on connaît les chiffres, ça nous fait bien marrer quand même.
C'est pas 30% de un peu, c'est 30% de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a dû y avoir deux autres traités START depuis.
Oui, il y en a eu un très récemment, je crois, il y a un ou deux ans. Enfin, je sais pas si c'est un traité START, mais il y a eu un nouveau traité de non-prolifération des armes.
Le 31 juillet 2000, Moshe Katsav est élu par les députés de la Knesset président d'Israël. Alors Moshe Katsav, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on le connaît pas tant parce qu'il a été président d'Israël, mais plutôt parce qu'il a été accusé de viol et qu'il a dû démissionner de son poste. Le 31 juillet 2008, la sonde Phoenix confirme la présence d'eau et qui sait peut-être de vie sur Mars.
Nous ne sommes pas seuls.
Peut-être.
Non, c'est vrai, il y a Globen.
Espérons. C'est ce que disent.
J'arrive.
Ce que disent les scientifiques, c'est que finalement le plus terrible, ça serait pas de savoir qu'on n'est pas seul.
C'est savoir qu'on l'est.
Ça serait de savoir qu'on est seul dans l'univers. Ça serait terrible. Les naissances du 31 juillet. D'abord un défenseur des animaux et des cervidés. En 1914, Louis de Funès. Alors pourquoi je fais cette blague sur les cervidés, Dino? Parce que.
Je sais pas.
Parce que ma biche. Franchement, là, t'as pas été fort. Franchement, je me disais, là, clac, clac.
Là, j'ai un peu plus de funès, j'aime beaucoup, mais...
Je suis... Franchement, ah, tu me déçois.
Excuse-moi, je suis désolé.
Il est né le 31 juillet 1914. Il nous a quitté en 27 janvier 1983. Énorme acteur, on va pas revenir là-dessus. Le 31 juillet 1919, c'est la naissance d'un chimiste, mais que vous connaissez sans doute plutôt pour son travail d'écrivain. Il est italien, c'est Primo Levi.
Ah.
Dino, alors là, te laisser parler parce que je sais que toi tu l'as lu.
Alors c'est un chimiste juif qu'on ne connaît quasiment, enfin italien qu'on ne connaît quasiment pas pour son œuvre en tant que chimiste, mais plutôt parce qu'il a vécu la Shoah et notamment qu'il a été enfermé au camp de d'Auschwitz et qu'il en est ressorti. Alors quand on découvre un peu son histoire, c'est une histoire quasiment abracadabrante. Et c'est un monsieur qui s'est suicidé, si je me trompe pas, dans les années 80.
Il est mort en 87.
En 87, il s'est suicidé justement parce que le poids du souvenir de la Shoah, de tout qu'il a vécu, lui pesait vraiment et il a fini par se suicider, je crois, en se jetant dans ses escaliers, ce qui est quand même une manière de se suicider assez dingue. Et il a écrit notamment deux livres dont je conseille absolument la lecture à n'importe qui. C'est alors que je dis pas des bêtises, le premier c'est Si c'est un homme.
C'est ça, c'est vraiment, il est très connu pour celui-là.
Donc c'est alors le vrai titre c'est Questo un uomo. C'est-à-dire que la traduction, c'est Si c'est un homme, et c'est plus une réflexion philosophique du genre est-ce que c'est ça l'humanité ? Où il revient sur la période dans le camp, sur la vie dans le camp, sur c'est vraiment passionnant la manière de voir que finalement on a une vision horrible du camp de concentration, mais aussi que derrière il y a toute une vie qui s'était établie dans le camp, notamment du marché noir, une forme de sociabilité. Donc c'est vraiment passionnant à lire. Et il y en a un deuxième qui est tout aussi intéressant qui s'appelle alors j'ai plus le titre en tête, je crois que c'est La Trêve. C'est peut-être le titre du premier chapitre, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sur le retour, c'est-à-dire que le moment où le camp est libéré par les soviétiques, le retour qui va mettre, je crois, 18 mois à revenir chez lui, ballotté de train en ville dans la partie
soviétique. Alors je te confirme, en effet, c'est bien La Trêve.
C'est La Trêve, et c'est peut-être le livre le plus passionnant parce que c'est sur une partie de la Shoah qu'on ne connaît pas, c'est le retour de tous ces gens qui ont été prisonniers sans finalement de véritable infrastructure pour pouvoir revenir au pays. C'est cette réflexion sur quand je reviens au pays, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais retrouver, est-ce que je vais retrouver mes amis, ma famille, ma femme, mes enfants. Et surtout c'est le début de la réflexion chez Primo Levi de je m'en suis sorti, et le fameux syndrome de post-traumatique, c'est voilà, j'y ai survécu, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort, et toute cette démarche qui permet de comprendre pourquoi finalement il s'est suicidé un peu tard. Donc c'est vraiment quelqu'un de super passionnant, même si on ne le connaît pas pour sa fonction première, malheureusement.
Alors ensuite, notre naissance d'un écrivain, alors là c'est dans un domaine complètement différent, le 31 juillet 1965, c'est la naissance de J.K. Rowling. Ah ouais, j'ai prévenu, hein, c'était complètement différent.
Qu'est-ce qu'elle a écrit, elle, déjà?
Faut noter que le 31 juillet, c'est aussi le jour de naissance de Harry Potter.
Ouais.
Voilà, et elle a fait naître son héros le même jour qu'elle, donc Harry Potter qui est né le 31 juillet 1980. Eh oui.
Ah la vache, il est plus vieux que nous.
Et c'est pour ça que dans les films, ça a un petit aspect, tu vois, c'est pas l'Angleterre d'aujourd'hui, parce que voilà, ça c'est censé être plutôt dans les années 90. Les décès du 31 juillet, alors, en 1784...
Harry Potter.
Non.
Ah merde.
C'est Denis Diderot. Lui aussi, il a écrit des gros trucs. Hein, l'encyclopédie, par exemple. Le 31 juillet 1944, encore un écrivain. On parle de paix et d'écrivain cette semaine. C'est Antoine de Saint-Exupéry.
Oui.
Alors, on peut même dire qu'il a disparu. On a retrouvé des traces de son avion, mais beaucoup, très très longtemps après, hein, je crois, dans les années 90-2000.
Si ça se trouve, il est vivant.
Je trouve, ouais.
Ouais. C'est bien, en fait.
Mais c'est un truc, c'est sur les navigateurs. Dès que t'as un navigateur qui part en mer, des fois on s'imagine qu'il est en fait en Argentine, il en a marre, tu sais. Donc il a arrêté son bateau, il s'est mis en Argentine, tout le monde croit qu'il est mort.
Donc bon, là, Antoine de Saint-Exupéry, forcément, c'est le petit prince qu'on peut lire à tout âge, hein, parce qu'il y a plein de degrés de lecture, vol de nuit, si par contre vous intéressez plus à tout ce qui est l'aéropostal. Et, jour particulier aussi pour nos amis belges, puisque le 31 juillet 1993, décédé le roi Baudouin Ier, donc roi des Belges. Alors les fêtes du jour, alors il n'y a pas de fête internationale.
Alors c'est ballot.
Mais il faut savoir que Hawaï, c'est le Kahae Hawaii.
Oh, tu dis vachement.
Ah, voilà.
La fête
c'est
du drapeau.
C'est exactement ça.
Voilà. Et en Malaisie, le Hari Palawan, la fête des héros.
Ah, on dit Palawan. Vraiment, il y a un petit côté aspiré au début du mot. Mais sinon, c'était pas mal. Hein. Pour un débutant, je trouve que tu t'en sors bien. Mais bon, voilà. C'est juste ce petit détail. Et bon.
Branleur. Et alors, en F1, eh bien, on va remonter au 31 juillet 1994. C'était le Grand Prix d'Allemagne, parce qu'il a souvent eu lieu dans ces eaux-là, hein, fin juillet. Et au Grand Prix d'Allemagne, remporté par Gerhard Berger sur Ferrari, eh bien, ça a été le premier podium d'un pilote français. J'ai même envie de dire du dernier grand, je vais pas dire grand pilote, mais dernier qui a vraiment eu des résultats. C'est le premier podium d'Olivier Panis.
Ouais.
Eh oui. Et donc, cette semaine, devine de qui je vais parler.
Tu vas pas parler de Panis, mais tu vas...
Eh ben oui.
Ah, je pensais que t'allais faire plus large sur les pilotes français.
Bah non.
Oh, t'as été chercher loin, chez lui.
Ah ouais, mais le problème, c'est que soit je cherche très très loin, on y passait 4 heures. Non, quand même, t'es gentil, je bosse demain. Et donc, je vais revenir quand même sur le dernier pilote français victorieux. Ouais. Et oui, il faut pas l'oublier.
Baco 96.
Ah. 96. Exact. Non, 96. Ah oui, non, pardon.
Avec
Déjà, quelques petites stats. Alors, est-ce que vous savez à combien de grands prix il a participé, à peu près?
150.
Ah, t'es pas mal, hein, parce que il a eu 159 engagements, 158 grands prix, donc une victoire, hein, on l'a dit à Monaco. Combien de podiums?
7.
Ah, t'es pas loin aussi, c'est 5. Il faut savoir qu'il a fait 16 tours en tête, et qu'en fait, c'est les 16 tours à Monaco. C'est-à-dire qu'à part là, il a jamais été en tête d'un autre grand prix.
Tu me diras, moi je préfère faire 16 tours en tête à Monaco et gagner le grand prix plutôt que.
Oui!
En faire un par-ci par-là et jamais rien gagner.
Et donc, faut rappeler donc que sa carrière en F1 commence en 1994. Hein. Il venait d'être champion de F3000 international en 93. Il arrive chez Ligier, l'écurie française. Et il fait une bonne première saison, hein, puisque sur les 16 grands prix de la saison, il finit 15 fois. Alors, pas sur le podium, pas dans les points, il finit 15 fois. Hein, parce qu'on parle de Ligier, quand même. Hein.
J'adore le suspense. Bon, bah, il finit 15 fois. Voilà.
Et à noter que la seule fois où il a abandonné, vous savez à quel grand prix c'était?
Monaco?
Bah non!
Au Grand Prix de France?
Bah oui, au Grand Prix de France! Ah. Un pilote français sur une écurie française. 95, c'est moins bon. Puis en plus, Ligier, tu sais, c'est le moment où Ligier, ça appartenait à Briatore, qu'il voulait le vendre un peu à Tom Walkinshaw, qu'il voulait délocaliser l'équipe en Angleterre. Enfin, c'était bien le bordel au niveau de l'écurie. Et bon, en 96, bon, c'est pas beaucoup mieux au niveau de la bagnole. Et il y a cette merveille, hein, du Grand Prix de Monaco, si je me souviens bien, c'était dans des conditions
pluvieuses.
Bien pluvieuses, hein, parce qu'il y a eu que 7 pilotes classés, que Panis, Coulthard sur McLaren, Herbert et Frentzen sur Sauber, Casalos sur Tyrrell, Mika Häkkinen sur McLaren, Eddie Irvine qui finit même pas la course. Même pas d'ailleurs, les 5, 6 et 7 finissent même pas la course. Mais comme ils ont fait suffisamment de tours, ils sont classés. Et,
voilà.
Et c'est tout. D'ailleurs, c'est drôle parce que Irvine, c'est le seul classé qui a pas marqué de points. Un peu les boules, quoi. Tu finis la course, enfin, tu finis pas la course, mais t'es classé. Mais non, pas de points. Et donc, voilà, c'est la dernière fois que, pour un pilote, on a entendu la Marseillaise. Sniff, sniff. Et malgré tout, ça va avoir de l'effet, puisque je vous ai dit, hein, Ligier, c'était un peu la dèche quand même à ce moment-là. Et vous savez, c'est le moment où on s'est dit, on va faire une F1, mais à la française.
Ah oui, ah, la grande aventure, la F1 française.
F1 à la française. Et donc, forcément, la victoire de Ligier, en plus à Monaco, ça a eu un écho, hein.
Écho.
Ouais.
Écho.
Monaco.
Et là, on peut se dire quand même que Panis, avec sa victoire, il aurait pu se dire, ouais, je vais essayer peut-être de me placer dans une équipe un peu meilleure, hein, après tout, essayer de grimper dans la hiérarchie. Et il a cette merveilleuse idée de finalement rester dans l'équipe. Et donc en 97, hein, la voiture est toujours bleue, hein, même si le ton du bleu est un peu différent. Et donc en 97, Ligier devient Prost Grand Prix. Et faut se rappeler quand même qu'au début, c'était pas si mal que ça, parce que il finit troisième au Grand Prix du Brésil, deuxième au Grand Prix d'Espagne, et quand il arrive au Grand Prix du Canada, il est troisième du championnat.
Sauf que...
Eh ouais, derrière Schumacher et Villeneuve. Au bout de 6 épreuves, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Une équipe qui se reconstruisait. Sauf que il va avoir ce terrible accident. Hein, parce qu'on le sait, au Canada, quand tu sors, les murs sont jamais loin. Si je me souviens bien, d'ailleurs, il percute plus que percuter le mur. Il percute et en plus, il glisse le long du mur sur une centaine de mètres. Résultat, alors, jambe fracturée. Et il rate quand même 7 grands prix dans la saison. Il effectue son retour au mois de septembre seulement. Donc genre ça bousille cette première demi-saison qui n'était pas si mauvaise que ça. Ça a complètement flingué finalement la saison de Prost, hein, de Prost Grand Prix. Il revient au Grand Prix Luxembourg. Il termine quand même 6e, donc dans les points. Et donc on se dit finalement que pour l'avenir de l'équipe, ça peut être pas mal. Sauf qu'en 98, c'est le vrai début.
Oui.
Parce qu'en 97, en fait, la Prost c'est une Ligier mais rebadgée. Hein, c'est une Ligier Honda rebadgée. Donc en 98, c'est la vraie première Prost avec le fameux moteur Peugeot. Et bon,
C'est bizarre, qu'est-ce que je peux dire, dès qu'on dit Psycho, tout de suite ça fait rire.
Voilà, en 97, il finit quand même 9e du championnat. En 98, il finit non classé avec 0 points, alors qu'il en avait marqué 16 l'année précédente. Voilà, que dire de plus? Alors 99, c'est pareil, hein. Là, c'est vrai, il marque 2 points, il finit 15e, toujours sur Prost Peugeot. Alors là, il se fait un petit peu pousser par la sortie, parce qu'il y a un jeune Italien promis un grand avenir en F1, qui s'appelle Yarno Trulli. Oui, oui, il faut se rappeler, à l'époque, Yarno Trulli était un grand espoir de la F1. Et donc, bon, il décide de quitter Prost, mais bon, après 2 ans en fond de grille, sa cote, c'est plus la même que lorsqu'il avait gagné le Grand Prix de Monaco. Et là, il fait un choix quand même qui est super couillu, parce qu'il décide de passer essayeur chez McLaren. Alors, en règle générale, quand on fait 3-4 ans comme ça et qu'on passe en essayeur, pensez à Luca Badoer, pensez à Marc Genet, on ne revoit jamais les Grands Prix. Ou alors qu'on les revoit, je vais pas revenir à Badoer, quoi. Et en fait...
Ah, Badoer, elle était dans un top team, je suis désolé.
Oui. Mais il était pas en top position, par contre.
Ah ça, bien sûr, mais bon.
Il pouvait pas jouer, il avait pas de portable dans la voiture.
Et donc, en 2000, Olivier Panis devient troisième pilote, en fait, de McLaren. Il refuse même une offre de chez Williams pour remplacer Zanardi, au moment même où Williams allait basculer sur le moteur BMW. Et en fait, il va faire une très bonne année en tant qu'essayeur. Les pilotes, même Ron Dennis, vont parler vraiment positivement de lui, ce qui fait qu'il va pouvoir rebondir. Et là, il fait un excellent choix de carrière, puisqu'il décide de partir chez Barr.
Ce qui n'est pas un mauvais choix, non plus.
C'est vrai que sur le coup, il arrive en 2001, c'est une équipe qui est en progrès, mais bon, c'est mieux, c'était déjà mieux qu'au tout début de Barr, mais bon, on peut se dire que oui, s'il y allait, c'était justement pour faire progresser cette équipe. Et d'ailleurs, pendant les 2 saisons où il sera, il va faire jeu égal avec Jacques Villeneuve, hein, même s'il marque 8 points en 2 saisons.
Je sais pas si c'est une référence.
Parce que la jeu égal.
Ça vient d'être à l'égal du type pour qui on a quasiment créé l'équipe.
Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Quand tu dis comme ça, ça marche. Parce que quand on dit tout de suite Jacques Villeneuve, on pense champion du monde. Mais c'est un tort.
Il va même frôler un 6e podium au Grand Prix du Brésil en 2001, qu'il va rater parce que ces idiots de chez Barr décident de faire entrer les 2 voitures en même temps. C'est bien. Et Jacques Villeneuve, qui quand même a de l'estime Panis, dira même ouvertement que c'était scandaleux et que l'équipe avait pourri la course d'Olivier Panis. Voilà.
Il est gentil, Jacques.
Il est gentil quand il veut.
En 2002, il est de nouveau poussé un petit peu par un petit nouveau, qui lui aussi devait avoir du succès, mais tout de suite en F1, parce que c'était un des plus grands génies de la F1, c'est Jenson Button.
Oui.
Qui, on le sait, cartonnait tout dès 2003. Et donc là, Olivier Panis change d'équipe, il arrive quand même à trouver une équipe, et là, il fait encore un excellent choix. Et là, c'est quand même, tu te dis qu'il avait du nez pour choisir ses équipes, il va chez Toyota. Et oui, rappelez-vous, Olivier Panis a été chez Toyota.
Ah, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Avec McNish.
Avec McNish, donc en 2003 et en 2004.
Célèbre commissaire depuis de Formule 1.
Jean-Pierre McNish.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur toutes ces dernières, en fait, entre 2001 et 2004, il a toujours fini 14e du classement.
Ouais, c'est bien ça.
En marquant entre 5 et 6 points, que ce soit, voilà, pour Barr ou pour Toyota. Et alors là encore, fin 2004, il se fait pousser, hein. C'est-à-dire que exactement, si je me souviens bien, ah oui. En fait, il roulait en 2004 avec Zonta. Ils ont mis Trulli à la place de Zonta. Et ils ont mis Zonta à la place de Panis.
J'adore le cheminement.
Très logique, hein. C'est Toyota. Hein. Donc, ce qui fait qu'il ne participera pas à la dernière course en 2004. Malgré tout, il reste chez Toyota pendant 2 ans, en 2005 et 2006, en tant que pilote essayeur. Comme quoi, parce que c'est une époque quand même où la Toyota progresse. On se souvient qu'en 2005, par exemple, la Toyota avait fait de très bons résultats. Donc, quand on voit aussi le boulot qu'il a fait chez McLaren et le talent reconnu, c'est la preuve quand même que même s'il n'a pas été le plus victorieux des pilotes, il avait sans doute un très bon talent, notamment dans la mise au point des voitures. C'est sans doute pour ça qu'il a intéressé des équipes comme Barr ou Toyota. Et donc, officiellement, en 2006, à 40 ans, il a annoncé qu'il mettait un terme définitif à sa carrière, alors que ça faisait déjà 2 ans qu'il roulait plus en course. Hein. Mm. C'est facile de dire ça, hein, quand ça fait déjà 2 ans qu'il roule plus.
Et il y a remis un terme cette année après les 24 heures du Mans.
Ah.
Parce qu'il a eu, je sais plus si c'est lui ou si c'est un de ses coéquipiers qui a eu un gros carton, et il a dit que pour lui c'était la goutte qui faisait déborder le vase, et que maintenant il allait plutôt se concentrer sur la formation de jeunes pilotes, je crois, et sur les filières et compagnie.
Oui, parce qu'il faut signaler que oui, il y a la vie après la F1 pour Olivier Panis. Alors il a participé au trophée Andros, hein, entre 2006 et 2008, toujours sympa. Il a été directeur sportif de l'équipe de France de A1 Grand Prix lorsque la France a gagné l'A1 Grand Prix. Car oui, hein, on n'est peut-être plus champion du monde de foot. Bon, on n'est plus non plus champion du monde de A1 Grand Prix, mais on l'a été.
La première saison en plus d'ailleurs, je crois. Mais c'est ça, c'est une spécialité française. Quand ça commence, on est champion. C'est après, quand les autres commencent à s'y mettre, on n'est plus champion.
Et donc c'est vrai que depuis 2008, il s'était reconverti dans l'endurance pour l'équipe Oreca. D'abord sur la voiture Oreca, construite par Oreca, et deux ans, ou en tout cas cette année sur la fameuse Peugeot 908 HDI, c'est-à-dire celle de 2010, avec laquelle il a quand même gagné les 12 heures de Sebring, ouais, cette année, et ils ont fini cinquième, donc derrière les diesels, enfin, aussi ils sont un diesel, mais en fait, eux même pas, c'est les derniers, en fait, dans la catégorie diesel. Oh, les nuls! Alors, ce qui est drôle, très drôle au 24 heures du Mans, c'est que, donc, il a fait 4 participations, et en fait, il a alterné abandon et 5e place. C'est-à-dire que, statistiquement, en fait, s'il participe au 24 heures du Mans l'an prochain, il va abandonner. Et donc, voilà, donc, c'était un retour sur la longue, finalement, carrière, hein, ce qu'il a commencé en 94, jusqu'en 2004. Donc, plus de 10 saisons, dont une, hors des pistes, hein, pilote essayeur au beau milieu de sa carrière, la longue carrière d'Olivier Panis, le dernier pilote français victorieux en F1. Voilà.
C'était beau, Shinji.
Magnifique.
C'était l'habitude.
C'était limite politique.
Oui. Oh.
D'ailleurs, je pense qu'on pourrait arrêter l'émission là, tu vois.
Oh, quand même.
Ah non,
pas,
je vais perdre mon défi.
Alors, comme ça, tu verras la fin.
Alors, on va passer à l'actu.
Et au podium de l'actu.
Et alors, je vais te poser cette question comme je pose toutes les semaines. Combien y a-t-il de places sur le podium cette semaine?
Eh ben, y en a 3.
Je crois que c'est la première fois cette saison qu'il y en a 3.
Plus une.
Ah, oh non.
Non, mais il y en a une juste pour faire plaisir à quelqu'un, parce que c'est quand même le meilleur. Mais que c'est compliqué, c'est la chronique pit stop de avant la dernière émission, dont on a peut-être parlé, mais que normalement je prends pas en compte. Mais comme c'est quand même la meilleure audience depuis sur la dernière semaine, bon, je vais quand même le citer pour lui faire plaisir. Mais sinon, on reviendra que sur les 3 meilleurs des 10 derniers, enfin des 7 derniers jours exactement à partir de ce soir.
Oui, c'est très clair.
Nous t'écoutons.
Et donc la troisième actu la plus des 7 derniers jours. Mais la quatrième, hein, vous avez... C'est un article qui parlait d'Alonso. J'étais en train de regarder s'il y avait un thème, mais apparemment non. C'est un article qui parlait d'Alonso et qui s'intitulait « Alonso ne respecte pas assez Felipe Massa selon Eddie Jordan ». Un article où Eddie Jordan revenait sur les déclarations de Fernando Alonso au lendemain du Grand Prix d'Allemagne, disant que désormais il devait compter sur les performances de leur coéquipier et sur l'équipe McLaren. Donc voilà, Eddie Jordan a dit que Alonso ne respectait pas assez Massa, que
c'est même pas du manque de respect, c'est que voilà, il lui est supérieur et il le prive d'air, quoi. Il a tout l'air d'en Ferrari, il le récupère pour lui.
ce qui est intéressant dans les déclarations d'Alonso, c'est que c'est sur le coup, moi j'avais pas forcément trop fait attention. C'est vrai que sur le coup quand même qu'il cite McLaren, quand j'avais vu les déclarations la première fois, je fais ouais, quand même il cite McLaren, c'est un peu vache pour Massa. Et en fait en faisant l'article et en revenant sur les déclarations d'Eddie Jordan, j'ai bien relu les déclarations d'Alonso et il dit nous devons compter sur les meilleurs performance de nos coéquipiers. Donc là, il parle de nos coéquipiers, il dit, on doit compter sur les performances de nos coéquipiers, s'adressant. Et là, tu te dis, attends, alors, cher Red Bull.
Alors là, c'est dégueulasse, parce que, c'est-à-dire que non seulement il donne des leçons dans son équipe, mais il donne des leçons aux autres équipes.
Non, mais c'est surtout que quand tu regardes en face, est-ce que les autres coéquipiers font des mauvaises performances chez McLaren? On peut pas,
chez McLaren, on peut pas dire ça.
Et chez Red Bull, là, il peut pas compter sur les bonnes performances du coéquipier de Vettel. Donc il compare surtout Massa à Button. Et moi je pense, alors c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais je pense que il s'est rendu compte que Massa allait rester en 2012, et en même temps il se rend compte aussi que s'il veut viser le constructeur, mais surtout le pilote, il a quand même besoin d'un coéquipier numéro 2, mais qui soit capable de s'intercaler entre ses principaux rivaux, ce que ne fait pas aujourd'hui Massa. Et je pense que les déclarations d'Alonso, c'est aussi un moyen de piquer au vif Felipe Massa pour lui dire, écoute, rapproche-toi un petit peu, sois un peu meilleur, parce que pour le moment, Massa ne lui sert strictement à rien. Alors déjà que Ferrari sert pas à grand chose pour Alonso, mais Massa ne sert à rien du tout.
Un jour Alonso, il fera comme Villeneuve, il va construire son équipe autour de lui pour être sûr que tout soit autour de lui. Non, Globen, une impression.
Non, mais enfin, c'est, y a pas besoin que Eddie Jordan le dise, quoi. On voit que voilà.
Mais c'est bien, c'est de dire qu'il manque de respect. Non, il manque pas de respect. Il le défonce sur tout.
Non, mais c'est surtout sur... dans la mesure où.
Non, oui, mais je.
Il lui manque de respect dans la mesure où il préfère citer comme ses alliés McLaren que ouais. son coéquipier. C'est vrai qu'on devrait normalement citer le coéquipier en premier. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que sur le début de saison, quand Alonso a repris des points pour le peu qu'il a pu reprendre à Vettel, c'était pas grâce à Felipe, mais c'était plus d'abord grâce à lui et grâce au fait qu'il y avait une ou deux McLaren entre eux.
Oh oui. Non.
Ce qui marche bien depuis deux Grand Prix d'ailleurs.
Oui. Alors quelle est l'actu suivante ?
L'actu suivante, la deuxième actu, mais la troisième si vous avez suivi. C'est une actu qui revient sur la petite péripétie. C'était un gros week-end pour Jenson Button. À savoir que Jenson Button a failli ne pas participer au Grand Prix.
Ah oui.
Puisqu'il était censé être quasiment au bord de la mort. Dans l'hôpital AEK de Budapest, puisqu'un petit malin, pas forcément, là je dis malin parce que il faut être doué techniquement, mais pas forcément très intelligent dans sa tête, a piraté le site de Button pour dire qu'il avait eu un accident de la route samedi soir, qu'il était à l'hôpital, qu'il ne participait pas au Grand Prix et qu'il était dans un état critique.
Non, puis c'est surtout croire qu'une telle rumeur peut se, enfin voilà, ça a été carrément super vite étouffé, parce que finalement on en a même pas beaucoup parlé.
Mais c'est ça qui est étonnant,
c'est pas comme quand Kubica a un vrai accident où 30 minutes après, dans le monde entier, on apprend qu'il a un accident, quoi.
J'ai même pas réussi à trouver un site qui avait balancé la news samedi soir en disant que Button était accidenté.
Puis ce qui est assez rigolo, c'est que l'hôpital AEK, finalement, c'est le seul hôpital qu'on connaisse autour de la F1.
Oui.
Peut-être que le mec, en fait, il...
En fait, tous les blessés graves, on va les emmener là-bas, tu vois. D'où qu'ils viennent.
Voilà, donc on peut vous rassurer, hein, si vous n'avez pas de nouvelles de Jenson Button, il va bien. On l'a vu un petit peu ce week-end.
Voilà.
Il avait l'air en forme.
Oui. Voilà. Et quelle est la suite?
Alors, la première actu.
Oui.
Mais la deuxième, si vous avez suivi. C'est l'avenir de Romain Grosjean chez Lotus Renault Grand Prix, qui dépend de Robert Kubica.
Ah bah oui. Wow.
Voilà, avec ce grand débat, faut-il mettre Grosjean ou pas ? Grosjean mérite-t-il une deuxième chance ou pas ?
Les circonstances sont pas les mêmes quand même, et les buts sont pas les mêmes. Lorsqu'on l'a mis la première fois, c'était pour remplacer le pilote et voilà, pour seconder Fernando Alonso. Là, si on le met, ça sera plus dans une optique de préparation.
Oui, mais il pourrait se griller quand même, je pense.
C'est le risque, oui.
C'est-à-dire qu'il y a deux risques en fait. Moi, je pense que honnêtement, le plus prudent, c'est de le laisser l'année prochaine. Il y a plusieurs touches. Alors apparemment, il y a Lotus Renault Grand Prix, ça c'est clair. Boullier l'a dit.
Boullier l'a dit, c'est ça aussi qu'il l'a dit. On l'a vu sur F1 la une où il a pas voulu balancer les équipes, mais il a dit quasiment textuellement que ils étaient les premiers intéressés.
Alors on l'a appris aujourd'hui, si Kubica revient pas, s'il n'est pas disponible pour le premier Grand Prix de la saison, quoi qu'il arrive, Renault ne comptera pas sur Kubica en 2012, lui donnera jusqu'à 2013 pour se remettre, histoire de pouvoir construire quand même sur la saison, pas faire comme cette année, être obligé de bricoler à la dernière minute. Donc sinon, il y a aussi des possibilités chez Williams, moi j'avais déjà évoqué, c'est vrai que c'est un profil qui plaisait bien à Frank Williams. Il y a aussi, qui a été cité par Jean-Luc Moncey, mais formellement démenti, limite agacé
oui.
par Eric Boullier, c'est Lotus,
Team Lotus, oui, forcément.
Donc voilà, maintenant c'est vrai que moi je pense vraiment qu'il faut vraiment le laisser sur sa fin de saison, le laisser apprendre.
De toute façon, ils l'ont dit, hein, s'il arrive, ça ne sera pas avant Singapour, puisqu'il finira de toute façon la saison de GP2.
Oui, non, puis même, je pense qu'il ne faut pas mettre en Grand Prix, ça ne sert à rien. Il faut le mettre le vendredi matin, qu'il apprenne, qu'il fasse des temps, qu'il se montre le vendredi matin, sans forcément trop se dévoiler. En Grand Prix, c'est-à-dire sans prendre le risque avec une voiture qui est quand même en fin de développement, avec des objectifs qui peuvent être faussés, surtout en fin de saison. Voilà, autant qu'ils viennent, qu'ils prennent un départ du bon pied l'année prochaine dans une équipe où il aura déjà fait 4 semaines d'essai, où il sera vraiment acclimaté plutôt que d'arriver en courte saison. Voilà, alors après, il faudra qu'il fasse le vendredi matin, ça c'est bien. Le risque, c'est que on se dirige quand même vers un remplacement de Nick Heidfeld à plus ou moins long terme. Le nom de Bruno Senna se murmure. Et le risque, c'est que si Senna carbure, ce dont je doute, mais si Senna carbure, ça va tout de suite, ça va remettre un mec sur le marché, et ça va du coup réduire les opportunités pour Romain Grosjean.
Après, le retour de Kubica semble... même en 2012 ou en 2013, assez probable. Et Senna, voilà quoi.
Kubica, tant qu'il rentre pas dans une voiture, faut espérer, hein, qu'il
oui.
qu'il ait pas de soucis, mais tant qu'il rentre pas dans une voiture, on peut pas dire.
Au moment, il y a tellement, honnêtement, il y a tellement de rumeurs qui tournent autour de Kubica et qui en plus sont aussi en grande partie alimentées par une certaine partie de la presse qui est un peu frustrée des résultats de l'Autos Renault Grand Prix en ce moment, y compris même, en interne, les gens sont tellement frustrés que ils en prennent peut-être leur vessie pour des lanternes. Honnêtement, pour le moment, on a vu une photo de lui, on ne l'a pas vu en interview ou quoi que ce soit, on ne l'a pas revu sur un Grand Prix, il est en préparation. Donc, c'est très difficile de juger des chances de Kubica de revenir.
Après, médicalement, c'est vrai que sa rééducation a l'air de bien se passer. Mais au-delà...
Puis il y a autre chose, il y a aussi le fait que les propos qui ont été tenus par Eric Boulis sont quand même assez durs quoi, contre Nick Heidfeld. Et on voit mal rester très longtemps.
Bah, de toute façon, c'est clair, hein. L'an prochain, il sera pas chez Renault.
J'ai lu qu'il pourrait aller en DTM aussi aujourd'hui. Retrouver Ralph et tout le gratin.
Ah ouais. C'est vrai que ça leur a bien réussi à Ralph et compagnie, le DTM.
Et alors, la première actu, mais qui compte pas, mais quand.
Bah oui, c'est juste pour faire plaisir à Ben de la chronique Top, hein, parce qu'il était tout content que des chiffres de sa chronique, hein. C'est une chronique qui s'appelle Une déception nommée Heidfeld, justement, comme on en parlait.
Ça, les mots très très durs, parce que, en règle générale, plus c'est franc en F1, en règle générale, plus c'est dur.
Hein. Bah, c'est surtout
quand un pilote est moins bien, bon, on y prend les formes. Dire vraiment, directement, carrément, Heidfeld est une déception, oui, c'est pas des petits mots.
Bah, c'est surtout que ça tranche de deux manières. D'abord, ça tranche parce qu'on sait que la communication en Formule 1 est quand même très, très carrée et que c'est toujours un vrai régal de lire les dépêches des équipes parce qu'ils savent dire des trucs sans rien dire. Des fois, ils te disent même rien du tout. Mais ils t'ont parlé pendant 5 minutes, un peu comme j'ai tendance à faire de temps en temps. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est surtout le contraste, alors qu'on n'arrête pas souvent de faire la comparaison entre le côté très peu sympathique de Briatore envers les pilotes, etc., le côté très cru et même virulent que pouvait avoir Briatore envers ses pilotes, et au contraire, un Éric Boullier beaucoup plus compréhensif, on le voit avec Grosjean. Entendre Éric Boullier dire ça à la télévision française sur Eurosport, publiquement, vraiment aussi cash de dire bah oui c'est une déception, vraiment ça tranche et ça choque quoi, c'est un gros impact. Alors maintenant, il commence à y avoir des scénarios qui disent que du côté de Renault, on va chercher le moindre prétexte pour descendre en flamme Nick Heidfeld, parce qu'on n'en est pas satisfait, donc on va chercher de la mule.
Il a presque réussi dimanche.
et notamment, l'incident qui est arrivé dimanche, il y a certaines personnes de chez Renault apparemment qui seraient plutôt enclines à lui mettre sur le dos en disant oui, il est resté trop longtemps sur régime moteur et compagnie. Donc il commence vraiment à y avoir tout un climat aussi autour de Nick Heidfeld.
On va passer aux citations.
Ah ouais.
Allez, à toi l'honneur, Globen.
Oui.
Qu'est-ce que je choisis?
Ah, t'en as plusieurs.
Oh. Ah ouais, ça c'est de la préparation.
On a combien?
Alors, 3.
Ah bah vas-y, tu peux nous y aller 3 si.
Oh.
Bon alors.
Vu qu'on n'a pas été très long sur les actus.
Je vais commencer par une vieille citation de. Ah bah je vais pas vous dire. Il faut bien reconnaître que les grands prix sont de moins en moins passionnants. Donc, par le diffuseur français de la F1.
Ah bah c'était.
Et qu'est-ce que
c'est? TF1 là, non Spaolini ou un truc dans le genre.
Non Spaolini.
Oui.
Ah c'est super. Donc, vieux.
On sent le mec qui suit bien la F1. Qui... Donc en contraste, parce que j'avais même un lien entre mes citations.
Waouh.
Attention. Alors c'est une citation du porte-parole de la chaîne anglaise Sky qui dit: nous n'aurons pas de publicité pendant les courses. Nous savons qu'elles ont été très impopulaires dans le passé et nous n'allons pas prendre ce chemin. Et curieusement. Deux jours après que Sky ait déclaré ça, on a eu droit à un demi-grand prix sans publicité.
C'est vrai que ça a été un peu la bombe du week-end au Hungaroring.
Ah ouais, l'annonce c'est une énorme bombe. Hein.
Du deal, ouais. De façon, on sait que ça faisait plusieurs semaines que BBC menaçait de ne plus diffuser la F1.
Faut dire que David Cameron a demandé à faire des économies, hein, notamment à la BBC. Et ben voilà, c'est la F1 qui est sacrifiée, hein, parce que
non, pas vraiment, parce que il y a un accord, c'est que c'est un peu le même accord que, enfin même si c'est la même chaîne, mais TF1 Eurosport, c'est-à-dire que la BBC va diffuser le strict minimum et avec de la pub. Par contre, Sky va diffuser quasiment toute l'intégralité des week-ends sans pub pour la course. Voilà, c'est le deal. Donc c'est un
gagnant-gagnant. BBC vont diffuser combien de courses?
Eh bien, ils vont diffuser, normalement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont diffuser la course, mais avec des pubs.
Ils diffusent, non, ils diffusent pas toutes les courses, hein.
Ah, ils diffusent.
Il y a des résumés de courses pour.
Ah, d'accord.
Ils vont diffuser, je crois, 6 ou 8 courses.
Ah ouais, ok. Ah ouais, non, j'avais pas compris comme ça, moi.
Ah non, la BBC, non, ne va plus diffuser en intégralité la, ils vont, je crois, se réserver, alors quand même, les courses les plus emblématiques. Dernière course de la saison, Monaco, des choses comme ça. Mais en effet, oui, alors je sais plus exactement le nombre, ça doit être 6 ou 8.
Et en plus, ils se sont fait avoir parce que cette année, la dernière course de la saison, ça va pas être la plus passionnante.
Oh, c'est le Brésil quand même.
Bah, ça sera appliqué, je pense, ça passera de l'an prochain. Là, cette année, encore, la BBC diffusera en intégralité.
Ce sera peut-être pareil l'an prochain.
Oui.
Donc du coup, je comprends que les écuries aient un peu gueulé.
Ah bah oui, alors il y en a qui disent, oui, pour l'instant elles gueulent, parce qu'en effet, par principe, et notamment apparemment c'est inscrit dans les accords Concorde sur des chaînes gratuites, mais il y en a qui disent, et ils vont peut-être changer d'avis, parce que comme c'est une chaîne payante, les revenus qui vont revenir aux équipes vont peut-être être plus importants.
Bah disons que le risque, c'est surtout qu'à terme, c'est un manque de visibilité pour la F1 quand même, et donc du coup, ça va peut-être pas encourager certains sponsors à investir, ou en tout cas à investir aussi fortement, penser à Vodafone et compagnie, vu qu'ils ne seront plus que cantonnés à un petit groupe de personnes. C'est-à-dire que même si la Formule 1 reste un produit qui s'adresse à des initiés et à un public précis, il peut capter sur une chaîne gratuite, il peut capter des audiences en plus, alors que sur une chaîne payante, il y a vraiment que les fans et qui vont y aller. Donc ça fait quand même une perte économique pour certains, surtout le marché anglais qui est important auprès de certains annonceurs. Donc ça peut être potentiellement à terme une.
Alors après, il faudrait savoir aussi l'audience de Sky. Parce qu'il faut pas oublier aussi que le paysage audiovisuel anglais n'est pas peut-être pas forcément le même que le paysage audiovisuel français. Par exemple, on sait qu'il y a des pays qui sont par exemple beaucoup plus câblés ou plus satellisés que la France. Donc il faudrait voir aussi ce que ça représente en réalité Sky, qui est quand même une chaîne c'est pas un petit truc dans le paysage audiovisuel français.
Mais en plus Sky c'est pas la chaîne que devait acheter Rupert Murdoch.
Sky est le bouquet qui s'appelle BeSkyB, c'est le bouquet satellitaire de Murdoch.
Et c'est le truc que Murdoch voulait à un moment donné acheter la Formule 1, et qu'il y a une bisbille entre Murdoch et...
ce qu'on a dit, qu'en effet, si Murdoch achetait la F1, c'était justement pour ramener la F1 sur ses chaînes, et notamment, on se doute qu'en Angleterre, ça aurait été alors soit Sky, soit Sky Sport. Il y a plein de trucs en fait derrière ce nom de Sky.
Donc ça veut dire que peut-être qu'en France, on aura un partenariat TF1-Canal+.
Oh là.
Bah, c'est ce genre de truc qui peut être imaginé.
Moi, je m'en fous, j'ai Canal.
Alors, BeSkyB, hein, donc British Sky Broadcasting, hein, qui est le bouquet satellitaire en Angleterre, c'est 11,5 millions de clients.
Ah ouais, quand même.
Oui, oui. Et dont Sky, donc la chaîne Sky, c'est la chaîne premium bouquet. Hein.
Ah, donc c'est pas exactement comme CanalSat, enfin Canal+, en France, quoi.
Canal+, oui.
Bon, ils ont pas 11 millions d'abonnés, Shinji Canal. Le Royaume-Uni, c'est quasiment la même audience que nous. C'est la même population que nous, à quelques millions près. Donc, imagine, 11 millions d'abonnés Canal, je suis pas sûr, hein, je pense.
Je vois 4 millions.
4 millions? Ah oui, c'est pas du tout la même échelle. Pour CanalSat ou Canal+?
Canal+.
Ah oui, Canal+. Mais en effet, c'est quand même une énorme brèche vers peut-être, en effet, sur des chaînes comme justement Canal+, CanalSat en France. Globen, t'avais dit qu'il y avait t'as cité la troisième ou pas?
Non, mais c'était pas terrible.
Ah bah vas-y alors.
Enfin, c'était la science était utile pour Bruno, mais pas pour moi. Il n'y a rien de plus à dire. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Il se sent vraiment pas bien chez LRGP.
Ah oui, sur Edfel, oui, qui a dit qu'en fait le roulage de Bruno en effet ne lui avait servi à rien. Bon. Alors moi j'ai une citation de Mark Gallagher. Oh. Alors qui est Mark Gallagher, que vous savez?
C'est pas le leader d'un groupe de musique.
Il a dit: il n'y a pas beaucoup de différence entre les quatre motoristes. Nous sommes toujours à l'écoute de nos partenaires et cherchons à maximiser les performances de notre moteur à chaque course. Le moteur, bip, a une bonne fiabilité. Je reste convaincu qu'il a le potentiel de gagner des courses utilisées dans la bonne voiture.
Oui, bah alors.
Surtout en fait, le problème, ça vient pas du moteur.
Ah, ça c'est sympa pour Williams.
Bah voilà, surtout. On se demande pourquoi Williams a décidé de choisir Renault. Voilà, donc Mark Gallagher, hein, qui s'occupe justement de Cosworth, donc il est optimiste. Il pense que Cosworth peut gagner. Quand on ne sait pas, mais il peut gagner.
Mais c'est vrai qu'il a pas tort. Il faut quand même reconnaître que cette année, les problèmes de Williams ne sont pas entièrement dus à Cosworth, sont surtout dus à Williams. Le problème surtout, c'est l'exploitation du diffuseur soufflé. Mais s'il y a plus ça, je dirais que les motoristes sont à peu près à armes égales. Même si, attention, il y a des gros motoristes, des mecs qui ont d'énormes moyens, puis il y a Cosworth qui reste quand même un indépendant. Et voilà, alors ça peut être intéressant, c'est sur 2014, avec un deuxième, le projet Pure qui va peut-être...
Bah, le problème, c'est qu'il y a Pure qui arrive.
Voilà, donc ça peut être intéressant dans la mesure où, avec deux motoristes indépendants, ça pourrait enchaîner une volonté de la FIA de véritablement, du point de vue moteur, faire une réglementation qui assure une certaine équité entre les différents motoristes.
Mais en même temps... Est-ce qu'elle est vraiment souhaitable, l'équité, quoi? C'est aussi une question.
On sait. Championnat de moteur.
C'est surtout, je pense, une équité pas trop en termes techniques, mais en termes de moyens, quoi. C'est-à-dire que c'est une vaste utopie parce qu'on l'a vu aussi avec les équipes, mais je pense que c'est peut-être plus facile à gérer envers les motoristes, sachant que c'est pas. On a essayé de faire ça sur les équipes, mais l'inconvénient c'est que les équipes c'est trop global. Je pense que si on arrive à limiter les moyens et à définir des cadres de moyens juste sur le compartiment moteur et en laissant la liberté d'innovation à chacun, mais en disant voilà, il y a tant de personnes qui doivent travailler sur le développement du moteur, bah, à partir de là, je pense que peut-être que les choses, en tout cas niveau moteur, vont s'équilibrer avec des propriétés différentes. Théoriquement, il n'y a pas non plus de raison qui laisse à penser que Cosworth ne peut pas s'imposer en Formule 1. Ils l'ont fait pendant des années avec des moteurs de fin de génération. Pourquoi pas, c'est pas impossible.
Et alors sinon, Dino, tu as une citation ?
Ah, moi, c'est une citation toute fraîche qui date d'aujourd'hui. Parce que je me suis dit, faut vraiment qu'on colle à l'actu récente pour être d'actualité encore dans 3 semaines, vu qu'on rentre dans une grande pause, dans des vacances. Les vacances, ah ouais. C'est une citation de Christian Horner, qui est la suivante, qui dit « Marc pourrait faire encore 2, 3 ou 4 ans en Formule 1, ça dépend de lui parce qu'il est toujours très compétitif et qu'il en veut toujours. » Et c'est une déclaration, la preuve que la communication fonctionne superbement bien chez Red Bull. C'est une citation qui arrive quelques heures après une autre citation d'Helmut Marko, qui laissait sous-entendre que Marc Weber allait prendre sa retraite à la fin 2012. Et qui appelait donc à préparer l'avenir avec des jeunes. Donc on voit quand même que il y a deux paroles chez Red Bull. Il y a la parole de l'écurie et il y a la parole quand même du sponsor de Red Bull qui est porté par Helmut Marko, qui veut promouvoir un pilote Red Bull, c'est vrai que, comme tu l'as dit la dernière fois, Shinji, en dehors de Vettel, pour le moment, la filière Red Bull n'a accouché que de Vettel. Les autres peinent un petit peu à s'épanouir. Même si c'est vrai que Toro Rosso n'est pas l'écurie idéale pour s'épanouir. Et c'est vrai que là, ça commence à devenir un petit peu chargé, ces Toro Rosso, avec Alguersuari et Buemi qui font des bons résultats, avec Ricciardo, dont on sait que Helmut Marko veut le mettre, avec Eric Vergne qui devrait venir s'il est champion F3 Euro Series. Donc voilà, donc il faut libérer une place, et apparemment, du côté d'Helmut Marko, il est vrai que ce soit celle de Marc Weber.
Mais après, il n'y a pas vraiment de vrais candidats à une place chez Red Bull, une bonne place, quoi. Buemi, Alguersuari, ils sont quand même assez moyens.
Mais c'est ça le truc, c'est
même par rapport à Weber.
Et c'est surtout, c'est en partie un constat d'échec aussi de Toro Rosso. C'est qu'on le voit, en dehors de mettre la pression sur les équipes, et je crois que cette année, ils ont encore prévu d'annoncer leur pilote au mois de décembre ou au mois de janvier. Au-delà de mettre la pression sur les pilotes, c'est pas constructif dans la mesure où, oui, les mecs font des résultats, mais ils font des résultats à la peur au ventre, ils sont pas en confiance. Là où ça marche pour un mec comme Alguersuari, qui apparemment, lui, il aime ça se faire taper dessus, pour un mec comme Buemi qui a vraiment quelque chose et qui honnêtement a le potentiel pour pouvoir rester en Formule 1, c'est pas forcément ce genre de management dont ils ont besoin.
Oui, on a un peu l'impression qu'ils se comportent comme une écurie de GP2 alors qu'en fait faut assurer d'une année à l'autre, quoi, et pas simplement pousser les pilotes à s'améliorer sans assurer une cohésion qui est nécessaire pour le développement.
Et donc on va revenir, alors faut avouer, le week-end il avait bien enfin le week-end commence le vendredi. Mais quel samedi ?
Pourquoi il y a eu quoi samedi ?
Il y a eu les qualifs !
Ah !
Ah, parce que tu t'es fait chier, toi, pendant les qualifs.
Non, mais je me cherchais qu'est-ce qu'il y avait... Non.
Qu'est-ce qu'il y avait bien pu y avoir samedi ?
Non, ouais. Oui, c'était la meilleure séance de qualification de la saison, ça, c'est... Faut aucun doute, mais j'ai cherché ce qu'il y avait pu y avoir d'autre. Je trouve qu'on a connu des samedis un peu plus agités, quand même.
Oui,
genre en
oui,
Grande-Bretagne.
Mais... Et donc, cette semaine, on ne traque la place du con. C'est une Toro Rosso, c'est Sébastien Buemi, hein, parce qu'il s'est qualifié 18e, hein, on va quand même rappeler, même s'il avait ses 5 places de pénalité.
Qu'il a jugé injuste, enfin qu'il a jugé trop sévère.
Ah, c'est... Je sais pas...
Eh ben, c'est tout bête, mais je me rappelle pas du crash, donc...
Ouais, c'est...
Moi, c'est simple, hein, c'est Hetfeld qui rentre dans le cul de Buemi. Hein.
Oh non, non, bah, non.
Comme ça, il mérite
non.
sa pénalité.
Non, c'est Hetfeld qui passe sur le côté, Buemi se resserre un peu, il y a Hetfeld qui décolle et...
Alors, bon, sur la qualif, hein, en Q2, petit score de Maldonado qui ne fait que 17e. Et d'ailleurs, il fait 17e parce qu'il n'a même pas roulé en Q2.
C'est un scandale. Ah non, mais sérieux, ça m'énerve, quoi. Enfin, je comprends la volonté, vouloir, stratégie d'économiser des pneus.
Mais là, carrément en Q2,
Même en Q1, mais déjà, c'est détestable en Q1, alors en Q2, c'est se casser le cul pour se qualifier et finalement, ne rien faire, hein, finalement, que t'as gagné qu'une seule place. Je trouve vraiment ça,
À noter, Nick Heidfeld, hein, que 14e, Kamui Kobayashi, 13e.
Ah non, Nick Heidfeld, il progresse, il est 14e.
C'est vrai. Petrov 12, hein, on voit quand même que pour Lotus Renault, c'est pas la fête, hein, depuis quelques semaines.
Ah, pour que noter, même Petrov soit loin.
Soit loin. Alors qu'au contraire, les Force India, bah, Paul Di Resta, il a fait 11e, et Sutil 8e quand même. Pas mal du tout. Hein.
Voilà, c'est, si les courses de Sutil se résument aux qualifications, ça sera bien.
À noter en Q3, Perez, alors qui lui aussi n'a pas fait de temps en Q3.
Pourtant, ça m'a énervé un peu.
Pourtant, il m'a semblé le voir sortir, donc j'ai l'impression qu'il n'a fait qu'un tour d'installation. Schumi, 9e, hein, Rosberg, qui fait 7, toujours un peu dans les mêmes eaux. Et donc, ce beau top 6 quand même, alors même si tous n'ont pas joué, on va dire, la pole, hein, enfin d'autres, certains moins que d'autres.
Il y a eu beaucoup d'erreurs.
Ouais, on va noter quand même Massa qui fait 4 devant Alonso. Et ça, quand même, hein, finir en qualif devant Alonso, c'était quand même pas mal du tout.
En qualif, c'est exceptionnel.
Ah oui. Même si, bon, finir quatrième, c'est jamais top. Hein. Finir du côté pair en Hongrie, limite, vaut mieux être cinquième que quatrième.
On le voit, c'est que même pendant la course, alors qu'il avait plu et que normalement les fils, ça gomme un petit peu cet aspect-là. C'est vrai que dans l'avant-goût du Grand Prix de Hongrie, il y a, je crois, c'est deux exemples où le cinquième sur la grille passe devant le deuxième en Hongrie, parce que tellement la trajectoire extérieure est vraiment mauvaise,
c'est très
sale. Et on pensait qu'avec la pluie, ça allait gommer un peu les différences, et malgré tout, quand on regarde le départ, globalement, il y a eu un beau décalage entre les chiffres impairs et les chiffres pairs.
Alonso, seulement 5e, mais du bon côté de la piste. Button 3, et donc celui qui... Ça s'est pas joué à beaucoup, hein. On le voit, il fait quoi ? Une toute petite erreur dans le dernier virage, hein. C'est Lewis Hamilton. Alors qui pour le coup, alors c'est con parce qu'il a pas la pole, il se retrouve du côté pair.
Ouais.
Mais quand même, son échec, ça se résume pas à son dernier virage quand même, parce que j'avais le moniteur à côté, il avait perdu quand même 2 dixièmes dans le deuxième secteur.
Mais les McLaren très bonnes dans le premier secteur, vraiment pas très bonnes. Dans le deuxième, c'est la Ferrari qui était meilleure. Et c'est vrai que dans l'ancien, il y a l'erreur qui fait qu'il joue pas autant la pole qu'il veut. Il y a aussi un super tour de Sébastien Vettel. Enfin,
il fait pas d'erreur justement par rapport aux autres. Lui n'a pas fait d'erreur.
Vettel quand même gère bien la pression en qualification.
En qualification, il est...
Alors qu'en course, il paraîtrait que peut-être. Éventuellement, il gère moins bien.
Et donc, c'était la 23e pole position pour Vettel, la 31e pour Red Bull, la 186e pour Renault, à une moyenne de 197,602 km/h. C'est dingue, hein, parce que on se dit, ouais, c'est encore une pole de Vettel, mais en fait, pas vraiment. Ouais. Celle-là, il est vraiment allé la chercher.
Mais j'ai pas entendu qui était 6e.
Le 6e, c'est Mark Webber.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
C'est pitoyable.
Alors c'est un drive très court sur Mark Webber, parce qu'il a eu une déclaration, et c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration après les qualifications, il a fini 6e, et il a eu une déclaration où il a dit que la voiture s'en portait bizarrement. Donc c'est un peu le problème que j'ai avec Webber, c'est que je trouve dans ses déclarations qu'il fait beaucoup de suppositions sur le fait que sa voiture est bizarre, sur le fait que il suspecte des choses peut-être, une iniquité de traitement et compagnie, mais jamais il affirme rien. C'est-à-dire qu'il contente de supposer, de jouer sur la vague ambiante de Vettel est le chouchou de Red Bull, c'est le numéro un désigné, tout le monde roule pour lui, et pourtant derrière il n'avance rien. Donc si vraiment il n'est pas content de son statut chez Red Bull, qu'il le dise. Qu'il dise clairement, qu'il le fasse savoir, mais qu'il arrête d'en faire de la com constamment. C'est déjà un truc qui m'avait énervé l'an dernier au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est que je trouvais, d'ailleurs je crois même que j'avais donné un drive-thru, je trouvais qu'il avait vraiment joué de la communication avec sa phrase pas mal pour un numéro 2 et compagnie. Et là, il commence, c'est un peu son raisonnement, c'est qu'il met le doute. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu le genre, bon, moi je dis rien, mais quand même.
C'est étonnant parce qu'en plus, il est plutôt du genre justement à dire les choses.
Mais c'est ça, je pense que c'est ça le sur lequel on se trompe, c'est qu'on pense qu'il dit les choses, mais il les dit pas vraiment. Voilà, c'est tout pour mon drastro. C'était pas celui que j'avais prévu, mais il m'est remonté à la surface il y a 30 secondes.
On va passer à la course.
Oui.
Et au top 10.
Ah non, tiens, avant de passer à la course, une vie.
Ah. Oui.
J'en profite. Je le fais pas toutes les semaines, mais comme là il y a une longue pause, je vais juste donner le classement du championnat de la qualif.
Ah oui,
donc,
c'est vrai.
Rappelez-vous, hein, c'est le principe, c'est on applique à la qualification le même barème que le championnat à la course, et on voit un petit peu qui est le champion de la vitesse pure. Il y a pas vraiment de suspense, puisque nous avons donc en 17e position Pérez avec 2 points, qui a inscrit 1 point de plus cette semaine. Nous avons Buemi 16e avec 3 points, ça fait très longtemps qu'il n'a pas inscrit de points. Alguersuari 15e avec 6 points, Kobayashi 14e avec 7 points, Sutil 13e avec 9 points, nous avons Execo 11e avec 12 points, Maldonado et Di Resta, qui devancent donc Sutil même dans ce championnat-là. Nous avons Nick Heidfeld, qui est 10e avec 14 points, mais c'est là où on voit quand même l'écart, c'est que nous avons Schumacher 9e avec 26 points et Petrov 8e avec 30 points. Soit quand même 16 points de plus que Nick Heidfeld. Donc là, quand on regarde qu'au championnat, je crois que c'est Nick Heidfeld qui a 33 points et Petrov qu'on a 32. Là, quand même, on voit en qualification, il y a quand même une différence entre les deux dans la performance pure. Ensuite, nous avons Rosberg 7e, 77 points. Massa 6e, 90 points. Et bon, après, il y a une marche, hein, puisque Button est 5e avec 123 points. Alonso 4e, 131 points. Hamilton 3e, 142 points. Il y a encore une légère marche avec Weber, 2e, 176 points. Puis là, c'est plus une marche, il y a 3 immeubles. Puisque Vettel est premier avec 251 points.
Ah oui, quand même.
Ben voilà, je me demande même si c'est pas plus de points en qualif qu'en course. Enfin, qu'en course, il a 243 ou un truc.
Il a 234.
Tu vois, il a 15 points de plus. Donc voilà, donc c'est pour en faire un petit point sur les qualifs. Et du coup, ça sera intéressant de voir la fin de saison comment ça évolue. Parce que, on a vu quand même que l'écart en qualification serait, c'était grandement.
Oui, c'est du, oui. On passe au top 10. Alors, Dino, nous donner, voilà, les pilotes nommés, mais non qualifiés.
À signaler que nous n'avons pas tenu compte de Romain Grosjean, bien évidemment. Qui a encore une fois reçu des points, la preuve que vous n'écoutez pas l'émission, merde. On vous a dit, on n'en parlera pas. Même si on en parle un peu. 23e ex aequo, des Italiens. D'ailleurs, les deux seuls Italiens sur le plateau, hein, Trulli et Liuzzi, qui n'ont pas marqué de points. 20e, nous avons avec 3 points Maldonado, Kovalainen et D'Ambrosio. Oh, D'Ambrosio, il a reçu 3 points. Oh, c'est pas possible. Ferme ta gueule, Dino. 19e, Sutil, qui marque 7 points. 18e, Pérez, 8 points. 17e, Glock, 9 points. Nick Heidfeld est 16e avec 15 points. Petrov le devance une nouvelle fois, 23 points en 15e position. Rubens Barrichello est 14e avec 24 points. Daniel Ricciardo est 13e avec 29 points. Rappelons qu'il a devancé son coéquipier ce week-end. Nous avons Michael Schumacher, 12e avec 60 points. C'est presque son âge.
Oh. Ah non.
Nous avons Kobayashi 11e avec 83 points. À noter que le vainqueur du SAV de la F1 de Hongrie, hein, du top 10 du SAV, a marqué 847 points. Donc voilà, il y a quasiment un rapport de 1 à 10 entre le 11e et le premier.
Et donc à noter que donc sur les 3 points dedans, Dio, eh bien il y en a 2 qui viennent de Dino. Oui.
Alors honnêtement,
tu n'aimes pas les mécanos.
Non mais oui. Honnêtement, c'est je me suis dit
c'est très joli, voilà. C'est vrai.
C'est le top 10, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre d'abord quelque chose en course, et on a envie aussi de distinguer ceux qui font montre de leur pilotage, etc. Et honnêtement, le 8e.
Mais il y en a qui votent pour Rosberg.
Oui, voilà.
C'est vrai.
Ça tient pas.
Mais le tête à queue de D'Ambrosio, moi honnêtement, j'ai trouvé dangereux une erreur de D'Ambrosio, ça c'est certain, mais quand même le Alors, en partie chanceux, mais quand même très joli à regarder. Donc voilà, je me suis dit, c'est tellement beau à regarder, on a quand même vu un truc super chouette. Et donc ça, faut regarder. On a quand même vu deux trucs exceptionnels ce week-end. On a vu une voiture faire un tête à queue dans la pit lane et une s'enflammer à la sortie de la pit lane. Moi, j'avais pas envie de célébrer le méchoui, mais par contre, la brochette de mécano, moi, ça m'intéressait bien.
Et alors, déjà, Globen, est-ce que tu as parmi ton top 10 nommé des gens qui n'ont pas fait partie du top 10? Parce que j'ai pas le top 10 de Globen, hein, c'est pour ça que je demande.
Alors, de tête, hein, alors j'ai mis Glock, bon, je mets toujours un point pour le meilleur meilleur nul.
C'est lui qui met des...
Schumacher.
Ah.
Parce que voir écrire M Schumacher avec un 1 rouge à côté, c'est quand
même... C'est vrai.
C'est assez beau.
Non, mais le plus drôle, c'est que j'ai été voir, il a mené la course, mais sur Stat F1, il lui donne pas les tours.
Oh.
Alors, je sais pas si il a mené la course, mais est-ce qu'il a mené un tour?
Ouais, apparemment, c'est au 12-13e tour, mais il aurait pas passé la ligne. Voilà. Ouais, donc il est pas crité du tout. Mais, on sait que il a mené.
Oui, c'est pas ça. On a vu le voilà, rouge, comme vous dites, donc.
Bah oui. C'est beau.
Non, et puis voilà, ça doit être tout dans le non top 10. Ouais.
Dans ce cas-là, on va passer au 10e. Il a marqué 99 points. C'est un pilote Toro Rosso. C'est Rémy Alguersuari. Ah,
d'accord.
Bon, moi, personnellement, je me suis déjà prononcé sur lui, donc je vais vous laisser parler.
Moi, je ne l'ai pas vu, donc je vais laisser Shinji parler.
Alors, tu viens de quoi? Moi, je lui ai mis...
Je lui ai mis 7 points, mais je ne me rappelle pas pourquoi.
Je lui ai mis que 2 points. Hein. Et alors, pourquoi je l'ai mis?
Oui, moi, je mets 2 points à D'Ambrosio, mais je sais pourquoi je l'ai mis. Shinji met 2 points comme ça, il sait pas.
Non, mais
il y a eu une tentative de déplacement, je crois, sur Kobayashi.
Non, puis même c'est par rapport au nombre de places qu'il a gagné, parce qu'il part 16e, puis il finit 10e. Je crois que c'est surtout pour ça, en fait, que je l'ai mis.
C'est une petite semaine pour Alguersuari cette semaine.
Surtout par rapport à Buemi.
Oui. D'ailleurs que généralement, c'est lui qui fait les grosses remontées.
Oui. Ah oui, mais là, bon, il y avait Buemi.
Donc c'est lui qui a chié en qualif.
Buemi, il mérite plus de points. Non, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis, voilà. Sans doute pour sa remontée.
Bah, on l'a vu en course, au moment où il y a eu le petit train, là. On l'a vu au premier freinage, je crois d'ailleurs qu'il est parti en pirouette, en percutant Kobayashi. Donc lui est déjà très, très, très optimiste en partant de loin. Bon, voilà, c'est un petit peu kamikaze quand même ce qu'il fait. Et en plus, Kobayashi referme un petit peu la trajectoire. Donc voilà, donc bon, je dirais tort partagé, mais c'est vrai que sur le coup...
Faut dire que ce qui était bien, c'est qu'il y a eu du dépassement un peu partout, que ce soit un peu partout sur la piste et un peu partout au niveau des positions. Très
sympa. C'est longueur au ring.
Ah non, mais même dans des courses passionnantes, c'est compliqué de dépasser, je veux dire.
Oui, mais là, c'est longueur au ring.
On te vante pas.
Je suis content, vous voyez enfin la vérité sur ce magnifique circuit.
Ah, il aurait pas flotté, Vettel il aurait gagné parce que ça aurait été en file indienne et que personne n'aurait doublé.
C'était méchant.
Mais c'est pas loin de la vérité.
Non mais c'est un truc pour lequel je... C'est vrai que c'est honnêtement le Hungaroring, même si les courses, moi je les trouve souvent intéressantes.
Non mais c'est vrai que sérieusement, je dois avouer que moi-même, comme beaucoup de gens, je me dis ouais, c'est un tourniquet. Et c'est vrai que quand tu regardes les courses qu'il y a eu, mais depuis 20 ans, il se passe très souvent quelque chose au Hungaroring.
Non, et puis je trouve que c'est ce qui est intéressant avec le Hungaroring, c'est vrai que c'est pas un circuit où on dépasse facilement, mais c'est surtout c'est cette notion là qui est importante, on dépasse pas facilement. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un circuit dans la saison les pilotes sont quand même obligés d'y aller, de se sortir les doigts du cul, hein, de sortir. Un peu comme l'a fait c'est Piqué sur Senna. Où il le passe, il le tente de le passer deux fois à l'extérieur dans l'ancienne version, c'est-à-dire que avec la petite ligne droite avec le virage
plus arrondi,
donc c'est vraiment un circuit qui oblige les pilotes à faire l'effort et à tenter de dépasser. C'est pas facile, et quand c'est pas facile, les pilotes ils doivent y aller. Au Hungaroring, ce que t'es quasiment certain, c'est quand il y a un dépassement au Hungaroring, déjà tu le vois. Alors qu'en ce moment, il y a beaucoup de dépassements, peut-être très beaux, mais qu'on ne voit pas. Là, au Hungaroring, les dépassements, tu les vois. Et quand tu les vois, c'est généralement de très jolis dépassements. Des dépassements à l'extérieur sur l'herbe ou avec un freinage super tardif. C'est vraiment des superbes dépassements. Et donc, c'est le truc, moi, que j'aime. Je préfère un circuit où il y a de temps en temps. S'il y avait tout le temps des Hungaroring sur la saison, ça serait chiant. Mais je préfère voir un circuit où il y a de temps en temps des dépassements, mais où ça reste quand même quelque chose de difficile et qui vraiment pousse les pilotes à exprimer tout leur talent.
On passe à la 9e place.
Oui.
Il a marqué 120 points. Il est allemand. Il roule sur une voiture allemande. C'est Nico Rosberg. Alors moi, honnêtement, je lui ai mis un point. C'est pour le départ des Mercedes. Parce qu'ils ont fait un très bon départ. Mais après...
Merde alors. J'ai complètement oublié.
Moi j'ai pas oublié moi. Moi il est pas dans mon top 10 mais c'est volontaire. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que encore une fois Rosberg, on ne l'a pas vu, sauf à la fin où il rattrape les furieux, là. Et c'est encore une fois Schumacher qu'on a le plus vu. Schumacher, en fait, de course. Schumacher, même quand il abandonne misérablement dans un coin, Schumacher, on le voit. On l'a vu avec oui. Massa. On a vu plus Schumacher que Rosberg. C'est cruel pour Rosberg.
Alors que Rosberg, il part 7. Au bout d'un tour, il est 4e. Globalement, les Mercedes font un très bon départ. Bon, après, ça s'est gâté. Donc voilà, moi, je lui ai mis surtout un point pour le départ. Par contre, c'est vrai qu'après, on le voit plus.
Et ils finissent encore à un tour. Ouais. Et ils finissent encore devancés par une Force India. Et la même pire, ils ont fini devancés par une Force India et par Buemi.
La seule satisfaction pour Mercedes, c'est qu'ils sont devant Lotus Renault.
Ouais.
Bon, le problème, c'est que c'est quasiment une des seules équipes qui est derrière eux. Donc, Non, voilà. Globen, est-ce que tu avais mis des points à Rosberg?
Ah non, pas du tout.
Pas du
Globen,
tout.
Jamais.
Jamais. Pas vu.
On va passer dans ce cas à la 8e place. Il a marqué 257 points. Donc là, déjà, au niveau des points, gros écart. C'est Sébastien Buemi. Sébastien Buemi, donc,
il est super bas.
Oui, parce que moi, je lui ai donné 6 points, quand même. Et Dino, toi, tu lui as quand même donné 10 points.
Ah ouais.
Voilà. C'est vrai, il part,
le mec, il part dernier,
23e, voilà.
Il part dernier, il arrive, il est 6e.
Non, il est pas 8e.
Non, il est 7e. Il est 7e, il est derrière il est 8e, il est derrière Di Resta qui est 7e. Donc oui, il est 8e.
Très belle course. Et puis alors là le truc c'est que ouais. 23-7, tu peux pas dire que c'est à cause des abandons.
Non, et puis il fait un premier tour, je crois, où il dépasse pas loin d'une dizaine de bagnoles. C'est t'as envie de le voir son premier tour quoi, t'as envie de trouver la caméra embarquée et de regarder.
Il est 14e, hein, donc on a fait il
voilà, une bonne idée. Ouais. T'as envie de voir son tour pour se dire, même si dedans ça arrive souvent quand tu pars du book, bon voilà, t'as doublé les Lotus Grand Prix, etc. Les Lotus Grand Prix, les Team Lotus, quoi que les Lotus Grand Prix aussi.
Bah, il partait côté impair quand même, avec des voitures pas.
Enfin, oui.
C'est quand même très fort, mais.
Ce qui
à mon avis,
donc,
il a dû.
Que même, voilà, la 23e place, et ben le coup du côté impair, ça marche. Quelque chose à rajouter sur Buemi, peut-être, de l'aubaine?
Non. Très belle remontée. Voilà, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas son tour sur internet, mais apparemment non, donc.
C'est vrai que c'est dommage, hein. Dans ce cas, on va passer à la 7e place. Et à la 7e place, c'est un pilote Force India. Et donc, bah, c'est Di Resta avec 285 points.
Il est pas... Merde.
Il est pas, hein. Di Resta. Alors, c'est vrai que moi, je lui ai donné que 4 points. Toi, Dino, tu lui as donné 8 points. Globen, est-ce que tu as noté Di Resta?
J'ai mis 8e.
Et bah, c'est 4 points.
Voilà.
Donc, il est bas, Dino.
Bah ouais, parce qu'il est quand même le premier des non-top teams. Ce qui est pas négligeable. 7e, la place que devrait occuper Rosberg, mais qu'il n'a pas occupé cette semaine. Il est en plus sur le même, c'est-à-dire que il n'est pas. C'est là où j'ai longtemps hésité avec Buemi, c'est que contrairement à Buemi qui était sur une stratégie particulière pour remonter du fond de peloton, lui il part 11e, il est sur une stratégie à peu près dans les mêmes cordes que ceux qui sont devant. Donc c'est vraiment sur la performance pure qu'il est 7e. Et encore une fois, il met une pile à son coéquipier, quoi. Et je me suis même surpris à un moment donné à me dire, mais Sutil, ça ferait un bon 3e pilote. Parce qu'on a Hülkenberg qui est en train de mettre la pression.
Tu sais que c'est hier, dans Dimanche F1, ils ont fait un petit point sur les transferts. Et visiblement, vu les rumeurs, Di Resta aurait sa place plus ou moins assurée. Mais par contre, Sutil, en effet... Peut-être qu'ils vont être tentés de mettre Hülkenberg.
Moi, il me plaît, Hülkenberg, en ce moment. Contrairement à certains qui disent que Wall Simulator, c'est bien, lui, il dit, les essais du vendredi matin, c'est bon, moi, j'en ai marre, l'année prochaine, j'irai faire autre chose. C'est quand même terrible d'entendre un jeune qui a fait une pole position, de l'entendre dire, l'année prochaine, si je suis encore essayeur, je préfère me barrer.
En même temps, Hülkenberg, c'est même pas normal qu'il soit essayeur.
Oui, mais en même temps, tu sais, je me dis aussi, c'est une bonne école. On voit Alonso, il fait une première saison, chez Minardi, c'est pas Williams non plus. Mais il fait une première saison qui est fantastique. Il est pilote essayeur, il a appris, il a rongé son frein, et après quand il est arrivé, il était prêt. Là, ça peut être intéressant pour Hülkenberg aussi, c'est-à-dire que c'est une année utile. Maintenant, là où il a raison, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne 2 années. Avec son statut et son potentiel, il faut impérativement que l'an prochain, il ait un volant. Puis apparemment, surtout, c'est qu'il n'y a personne qui est sur Sutil en ce moment, quoi.
Non.
Bah c'est dommage parce que ça fait quelques années.
Ça fait des années qu'on dit qu'il...
Mais c'est ce que tu disais dans la dernière émission, c'est que pour moi, il se gâche.
Globen, quelque chose à dire peut-être sur Di Resta?
Non, il continue sur sa lancée, quoi.
Ce qui est bien que d'y rester là, en plus c'est son discours que après la course il dit voilà, oh, ça commence à faire longtemps que j'étais pas dans les points. Voilà, c'est un jeune au temps long.
Ah et, oui, hein, parce que ça, la dernière fois qu'il a marqué des points, c'était en Malaisie.
Ouais, donc
pourtant on a le souvenir qu'il a pas fait, enfin qu'il ait fait des trucs pas trop mal, mais en fait oui, il a pas marqué de points depuis la Malaisie d'y rester. Hein.
Alors c'est vrai que c'est dur de comparer Sutil et Di Resta, c'est pas le même chemin, il y en a un qui débute, l'autre il en est déjà, je sais pas, Sutil il a ça peut-être sa cinquième saison, commence peut-être à avoir le temps long, mais c'est encourageant de voir un pilote vraiment se déchirer, et c'est toute la différence qu'il y a en ce moment entre Sutil et Di Resta, c'est qu'il y en a un qui se déchire et que l'autre, bah il se déchire.
Ouais. Allez, on va passer à la sixième place, et là on va rentrer dans de la top team, hein, avec donc 322 points. C'est un numéro 2, hein, ne cesse de le dire. Et c'est le numéro 2 de chez Ferrari, c'est Felipe Massa.
Un numéro 2? Ah non.
Ah. Dans les numéros 3.
Bon d'accord, il est au moins 2,5, mais bon. Donc Massa qui, j'ai envie de dire, il poursuit quand même sur sa lancée, hein. Donc c'est...
Mais il a rien fait dans le dernier.
C'est mieux, mais c'est voilà.
Mais même en qualif, hein, en qualif, il est devant Alonso, d'accord, mais il est devant Alonso parce qu'Alonso se plante dans son dernier tour.
Oui.
Bah oui. Voilà, c'est la seule consolation qu'il a en ce moment, mais il est.
Ça va mieux, mais il plafonne, on dirait.
Puis il est encore derrière, enfin même là si c'est sur des comment ça s'appelle des conditions particulières, il apporte rien, enfin bon d'accord, il sort, il était convaincu de pouvoir se battre pour le podium, il m'a fait rire quand j'ai lu ça, ses déclarations. Sans ma sortie, sans mon aileron arrière, j'aurais pu être sur le podium. Oui, enfin non quand même, faut arrêter quoi. Arrête Felipe, merde.
Globen sur Massa.
Bah, j'avais bien aimé sa prestation en qualif, parce que même si on dit que Alonso s'est raté, bah, c'est quand même le jeu, quoi.
Ah oui.
Faut quand même le sortir, le temps, hein. Faut pas l'oublier, hein.
Voilà. Et puis, bon, il a été un peu décevant en course. Bon, il partait du mauvais côté, et puis, je pense qu'il est toujours sur une pente ascendante, mais Alonso est clairement au-dessus.
Et comme tu disais au début, pour l'instant, il aide pas Alonso, hein. Ça va mieux, mais c'est pas encore.
Lui va mieux dans l'ensemble et il est plus productif entre guillemets pour l'écurie. Il rapporte des points. Mais en dehors de ça, enfin, à quoi il sert l'équipe? Il prend rien derrière. Il prend voilà, il est toujours le dernier des pilotes des top teams. Il est toujours le dernier. Il est voilà, il y a le dernier des pilotes des top teams et il y a le premier des autres. C'est Massa et derrière normalement il y a Rosberg. Voilà, ces deux mecs là, généralement on les retrouve l'un devant l'autre. Et honnêtement, si l'année prochaine on a encore 2-3 équipes à peu près au même niveau, ça sera pas bon pour la Scuderia.
Ah non. On va passer à la 5ème place.
Déjà, mais qu'est-ce qu'on est rapide. Eh, ouais. À ce rythme là, c'est l'émission sans montage.
C'est un numéro 2, mais attention, il ne faut pas lui dire parce qu'il aime pas qu'on lui dise, même si c'est marqué sur sa voiture.
Et qu'il aime le clamer.
Oui. Là, il dit juste pas mal pour un numéro 2, je suis pas un numéro 2. Bah attends, c'est marqué dessus. Il a marqué 332 points, c'est bien évidemment Mark Webber.
Tu me diras, Mark Webber n'est pas un Red Bull et pourtant c'est marqué dessus.
C'est vrai. Ça veut dire qu'il ne roule peut-être pas en infini alors que c'est marqué dessus.
C'est
aussi.
Vrai.
Webber, je lui ai quand même donné 10 points, que, bah, 5ème place. Hein. Et Dino, t'as été plus dur, hein. Toi tu lui as donné que 4 points.
Ouais.
Globen, tu l'as placé combien, Webber?
Quatrième.
Quatrième.
Donc, ah oui, j'ai été dur.
T'as été dur, bah oui. Alors Dino, pourquoi as-tu été si dur avec Mark Webber?
Parce qu'il y en a qui ont montré tellement mieux avec des voitures différentes, quoi. Et en plus...
C'est vrai.
Alors, il est entre guillemets sur le coup avec ses pneus tendres. Il est le premier c'est un truc qui est formidable avec Webber, c'est que c'est le premier à prendre des risques. Je l'ai dit dans l'analyse des stratégies, c'est, voilà. Encore une fois, c'est Webber qui est le premier à retirer les pneus intermédiaires pour passer aux pneus slick. Quand il s'agit de prendre des risques, etc., il est toujours le premier. Il est le premier aussi dans les cadors à chausser les pneus tendres. Donc encore un risque. Le problème, c'est que manque de bol pour lui quand il se met à pleuvoir. Paf, il prend les pneus intermédiaires.
Il change et non.
Et sinon, honnêtement, il n'était pas loin d'être sur le podium sans ça. Mais voilà, c'est en faisant cette décision. Alors, ça a été un peu tout le truc de dimanche, c'est de savoir si c'est les pilotes qui prennent la décision ou si c'est les écuries. On voit bien que dans la plupart des écuries, on a un peu mis les œufs dans des paniers différents. Donc, pour assurer un résultat, là, honnêtement, il y a aussi à un moment donné, ce qu'ils ont dit dans la radio de Vettel. Au début, ils m'ont dit, écoute, voilà la situation. Maintenant, on te laisse voir. C'est toi qui nous dis. Donc, je suppose qu'ils ont...
C'est ça, hein, dans le choix des pneus, c'est du 50-50. Hein. Et les erreurs sont, c'est du 50-50. Le pilote, s'il le sent pas, il se doit de dire je le sens
je
pas.
Je pense qu'ils ont dit la même chose à Marc Weber et que du coup le choix de passer en pneu intermédiaire, il incombe en partie à Marc Weber.
Et d'ailleurs, il a dit après, c'est de ma faute. Mmh. Hein, il dit j'ai fait le choix de prendre les intermédiaires, ça n'a pas marché, c'est de ma faute.
Et bon, moi si vraiment je l'ai mal classé, c'est surtout pour sa qualif.
Oui, très décevant.
Autant Vettel fait une très bonne qualif, autant on n'a pas l'impression non plus que Weber soit au niveau de la Red Bull sur ce week-end. J'ai l'impression de voir Weber peu à peu, je pense qu'il a vraiment pris
C'est l'impression de Weber du début de la saison.
Oui, mais
non, mais quand même, depuis le début de la saison, Vettel domine. On se doute que Weber fait pas forcément les mêmes temps que lui, mais on aurait pu quand même s'attendre à ce qu'il fasse mieux que ça.
Oui, mais là où, au moment où ça se resserre, il a pas élevé son niveau de jeu comme l'a élevé Vettel. Alors après, est-ce qu'il avait des problèmes avec la voiture, il a trouvé la voiture bizarre. Ils ont quand même pris en plus un joker dans la nuit de vendredi à samedi pour pouvoir travailler sur la voiture, etc. Donc, ils ont quand même pas mal travaillé. Le travail a fourni pour Vettel, il a pas fourni pour Weber. Donc, il faudra qu'il explique pourquoi. Et puis, j'ai l'impression vraiment que sa dernière pole, c'est en Allemagne, je crois, c'est ça ?
Oui, c'était la dernière fois.
Et que pour la troisième fois, il concrétise pas sa pole, et je pense que ça a été un coup de bambou. Au moment où les autres commencent à revenir, lui, il a raté chacune des opportunités de victoire qu'il a gagnées avec une voiture qui dominait. Donc là, aujourd'hui, il est peut-être en train de se dire, ma voiture ne domine plus autant. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit publiquement. La Red Bull est moins dominatrice que l'an dernier, etc. Et on sent qu'il y a un moins bien. Alors, il faudra voir si ça se confirme sur le long terme. Mais on le sent pas, en tout cas, en mesure de véritablement gêner Vettel. Surtout que là, avec le retour des grosses écuries derrière, je suis pas sûr qu'il puisse gêner en interne Vettel. Je pense qu'en interne,
il y a pas... Ce qui est embêtant, c'est que, quitte à ne pas gêner Vettel, il ne gêne pas les autres.
Voilà.
Parce que limite, ce serait ça, l'utilité qu'il doit avoir, c'est gêner les autres. Et n'a pas non plus l'impression très décevant, moi je veux dire, même depuis le début de la saison, on s'attendait quand même à ce que Weber soit mieux que ça. Même si au final il est deuxième du classement, il devrait avoir plus de points.
Peut-être le syndrome Kimi, un peu. Il a fait une très bonne saison l'an dernier, et cette année, moyen quoi. On a l'impression qu'il a atteint un peu.
J'ai quand même moins l'impression que Weber. J'ai pas l'impression qu'il y a ce côté je m'en fous.
Non, mais il a prouvé qu'il savait faire quelque chose et peut-être qu'il bloque un peu à niveau de la dernière marche. Quoi.
Ouais.
Et qu'il a été très déçu.
On va passer à la quatrième place. Et si on parle d'un pilote Red Bull, autant parler de l'autre. C'est Sébastien Vettel qui est quatrième.
Oh là là.
Avec 581 points. Moi, je l'ai mis troisième. Dino, tu l'as même deuxième. Globen, tu l'as mis combien ?
Deuxième.
Ah, Globen, deuxième, c'est bien. Ouais. C'est mon pote, Globen. J'ai eu peur d'être seul sur ce coup-là.
Et il n'est que quatrième.
C'est ce qu'ils ont appelé à... Comment ça s'appelle ? À Eurosport, à la paranoïa Vettel. J'étais, mine de rien, sur Dimanche F1, j'étais très content, parce que ça rejoignait ce que j'essayais de dire sur Twitter pendant la course, c'est que ce qu'ils appellent la paranoïa Vettel, c'est que maintenant, chaque entre guillemets, geste de Sébastien Vettel va être cherché, notamment par une certaine partie des médias, mais aussi par une partie des fans, comme une possible faille. C'est tout à fait naturel, c'est le pilote qui domine, il a tellement dominé son sujet qu'aujourd'hui, la moindre faiblesse, on aimerait y voir l'opportunité pour relancer le championnat. Maintenant, honnêtement, moi, il fait une super course avec une voiture qui est clairement moins bonne que la McLaren.
C'est clair que l'opposition entre guillemets qu'il y a eu entre Vettel et Hamilton, c'était même incroyable de voir ça. Je veux dire, on ne s'attendait pas à voir une Red Bull, j'ai presque envie de dire, à la rue. Il lui a foutu un vent, quoi. Alors que c'est quand même la Red Bull, là, qui a gagné 6 courses de plus, suite.
Quand on voit d'ailleurs, je crois qu'en 5 tours, je crois que Hamilton, il a 8 secondes d'avance. C'est ce que faisait Red Bull en début de saison.
Oui, voilà.
Et puis, par contre, des fois, pour revenir sur l'histoire de paranoïa, on a eu l'impression qu'après avoir doublé Alonso, il gérait, et apparemment, c'est un problème de boîte de vitesse. Et quand même, quand on voit le rythme avec lequel il est revenu sur Alonso, on peut se demander s'il aurait quand même pas pu gagner la course.
Ouais. Bah, il a dit que après la course, qu'il avait sans doute pu essayer de la gagner. et que voilà, il n'en avait pas eu l'occasion, mais qui sentait que malgré tout, il y aurait eu la possibilité. Hamilton, entre guillemets, écarté, mais on va en revenir après. Ouais, il y avait peut-être la possibilité, mais c'est vrai qu'il est resté final, fini à quoi seconde.
Ouais, fini à
3 secondes et demie.
Bon, mais c'est vrai, en comptant la décélération du vainqueur.
Voilà, il était plutôt en fait sur 7-8 secondes en effet. Alors c'est comme d'habitude, hein, c'est un mauvais résultat entre guillemets, il finit deuxième. Mm. Hein, il reprend de l'avance au championnat.
C'est-à-dire que autant en Allemagne c'était une course décevante parce que la Red Bull ne semble pas à la rue, c'est vraiment Vettel qui semble plus à la peine avec sa voiture. Autant là vraiment on a senti la voiture toucher un point limite, là où honnêtement, sur la hiérarchie des essais, on avait vraiment l'impression que la McLaren était devant sur les longs relais, sur les relais courts, sur les simulations de course, dans tous les domaines, la McLaren était devant, et que derrière, il y avait Ferrari et Red Bull qui étaient bons chacune dans leur domaine, mais qui globalement s'équivalaient. Donc c'est vraiment dire que la Red Bull ce week-end a vraiment marqué un gros pas en arrière, plutôt que ce sont les autres qui ont marqué un pas en avant.
Si... Franchement, sur la suite du championnat, il y en a qui s'attendent déjà à une seconde partie de championnat très disputée. Attention, on parle de Red Bull. Alors certes, ça va être plus disputé qu'au début, clairement. Oui, on a bien vu que la McLaren et même Ferrari étaient revenus. Maintenant, ça veut pas dire non plus que la Red Bull, elle va plus gagner de la saison.
Faut aussi regarder un truc, c'est qu'il y a, là, il y a la pause estivale avec la fermeture pendant 15 jours des usines, des ordinateurs centraux, sauf que l'ordinateur central de Red Bull, on peut pas le débrancher.
Ah bah non. Donc
voilà, c'est qu'on sait très bien
non,
que...
Ça serait triste.
On sait très bien que du côté de Red Bull, ils ont... Le vendredi, c'est vraiment les essais vendredi étaient très intéressants parce que ils ont vraiment essayé énormément de choses en vue de Spa. On sait que McLaren, par exemple, a testé un aileron arrière en vue de Spa-Francorchamps ce vendredi matin. Donc, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais. Ils ont beaucoup roulé.
Pour peu que les conditions redeviennent normales, parce qu'on parle beaucoup du mauvais mois de juillet, entre guillemets, de Red Bull, mais faut pas oublier quand même qu'on sort d'une série, on va dire, depuis le Canada, de Grand Prix, avec des conditions climatiques particulières. Mmh. Que le seul Grand Prix qui s'est passé, on va dire, normalement sous un beau soleil, c'était le Grand Prix d'Europe, et qui sait qui l'a gagné, c'est Vettel. Ouais. Hein, qu'au Canada et en Grande-Bretagne, il perd la victoire, mais de rien.
Sur une erreur.
Sur une erreur à chaque fois. Donc finalement, il n'y a qu'en Allemagne où il a semblé être vraiment moins bon. Là aussi en Hongrie, quand même, il était moins bon. Donc c'est pour ça, la seconde partie de saison sera sans doute plus serrée. Mais rien ne dit qu'à partir de la Belgique, il ne va pas réenchaîner 2 à 3 victoires.
On peut vraiment penser que ça va phosphorer fort du côté de tout le monde. Mais que vraiment, la force d'imagination, de solutions aérodynamiques, etc., que peut apporter Adrian Newey est très importante. Surtout dans une époque où lui qui travaille sur une planche à dessin sans ordinateur va avoir 4 semaines pour travailler, là où les autres n'ont entre guillemets que 2 semaines pour travailler avec les ordinateurs, les calculateurs, les souffleries et compagnie. Donc ça,
les autres aussi ont des ingénieurs, mais sauf qu'à nous, ils ont un génie.
Newey qui arrive avec son petit calepin en disant bah, écoutez, j'étais à la Barbade, je vous ai ramené.
Et j'ai trouvé le truc. Hein. Voilà. C'est-à-dire que j'étais en train de pêcher, et puis j'ai vu un truc, et je me suis dit tiens.
Donc voilà, et puis ça que comme tu le dis, il y a aussi en ce moment le c'est aussi pour ça que j'ai eu un débat avec Steph Corr sur Twitter pendant la course. Qu'on se pose la question de savoir si Vettel résiste ou pas à la pression, c'est tout à fait légitime, je le comprends. Maintenant, on peut pas non plus déduire d'un phénomène et de ne prendre que ce phénomène pour expliquer qu'il ne tient pas la pression. Il faut regarder l'ensemble des choses, il faut regarder le fait qu'il est il a une moins bonne voiture, en tout cas sur ce Grand Prix-là, qu'il est sur une piste humide, qu'il est en position de défense, qu'il fait entre guillemets une erreur qu'on refait plus tard d'autres pilotes. Alonso, il y a Petrov qui l'a fait, il y a Button, il y a Hamilton qui l'a fait, il y a Massa qui l'a fait 2 fois, Vettel l'a fait aussi une deuxième fois. Il y a aussi le fait que il est plus habitué à être autant attaqué, à être autant soumis, et que on comprend qu'il ait moins de réflexes. C'est vrai qu'il y a des mecs qui sont depuis le début de la saison, ils sont dans le paquet en train de se battre pour gagner des places. C'est normal qu'ils soient plus aguerris. Il n'est pas habitué à être dans cette position-là. Donc il y a beaucoup de phénomènes et c'est difficile de pouvoir déduire, même ne serait-ce sur Red Bull, de pouvoir déduire sur un seul Grand Prix de la fin de la saison. C'est un signe. important. Maintenant, de là à penser que la fin de saison va être dominée par McLaren et que Red Bull va se contenter de faire des 5e, 6e places, c'est pas gagné, puisqu'il y a quand même des circuits où la Red Bull va fonctionner.
Et puis derrière les... Oui, je disais, derrière les Red Bull, il y a quand même, il n'y a pas que McLaren, il y a une grosse dispersion. Oui, et même si Red Bull ne gagne plus, voilà.
On le voit là, en 4 Grands Prix, les 4 derniers Grands Prix, 4 vainqueurs différents.
Bah, c'est tout bénef.
Ou 4 champions du monde aussi.
Oui. Bah là d'ailleurs, les 4 premiers, 4 champions, voilà. C'est toujours plaisant à voir. Et à noter, Vettel, bon choix de pneus. C'est aussi ça qui lui permet de finalement, de faire quand même sa deuxième place.
Oui, sinon il aurait fait une troisième place.
La prudence. Bah non, t'as pas tort.
Non, voilà, donc c'est, il aurait fait une troisième place. Il aurait perdu plus de points sur Hamilton, qui serait devenu deuxième. Mais là encore, là, il trouve moyen d'être deuxième et de regagner des points, quoi. Il a, je crois, 85 points d'avance au championnat. Il en avait 77 ouais. avant le Grand Prix.
On va donc passer à la troisième place, au podium.
Ouais, de podium. Qui a 3 places, lui.
Oui. C'est pas comme certains.
C'est original. Non, mais c'est ça original.
Il a fini troisième. Il a marqué 595 points. Et pourtant, il faisait la gueule sur le podium. C'est Fernando Alonso.
Oui, bah c'est pas qu'il faisait la gueule, c'est qu'il se forçait à sourire et à avoir l'air heureux.
Donc, il avait peu la même chose. Ah, il était, ah oui, il respirait la joie sur le podium.
Ouais. Pour quelqu'un qui pensait profiter de la baisse de niveau, il s'est raté.
Ah. Que quand il demandait de l'aide au McLaren, et je pense qu'il voulait pas, peut-être pas non plus.
Non, Alonso, que dire. Donc, lui, il n'a pas pris d'intermédiaire, mais voilà, il a mis les super soft un peu trop longtemps. Enfin, il a fait un choix, en tout cas.
Il a fait une stratégie qui était peut-être, qui aurait peut-être pu être payante s'il n'y avait pas eu la pluie.
Oui.
Parce qu'il repartait finalement pour refaire un dernier arrêt en pneus tendres, même si c'était, on s'en est vite rendu compte, les pneus tendres fonctionnaient tout aussi bien que les pneus super tendres dans ces conditions-là.
Un tel Alonso que j'ai mis quatrième et que toi aussi, Dino, tu as mis quatrième.
Ouais. Et moi, troisième.
Ah, comme quoi?
J'ai suivi le podium.
Mmh. Ah. Bah, il a fait beaucoup d'erreurs au début, Fernando. Enfin, il a été, à l'attaque.
Tous ont fait des erreurs. Enfin, tu
oui,
peux
non,
pas...
mais quand même, Alonso, au début, il en a fait un bon paquet. Alors, je pense que c'est parce que il a fait une mauvaise qualification, qu'il était énervé, que déjà, il voulait, dès le départ, remettre un peu son coéquipier à sa place. Qu'il a fait et qu'il a peut-être vraiment voulu attaquer et peut-être un peu trop surcompenser les faiblesses de la Ferrari ce week-end. Donc du coup, il est c'est vrai que sur une piste humide, il est attaqué comme un malade. Donc c'est joli à regarder. Maintenant, il a perdu pas mal de temps sur ce genre de choses. Même à la fin de la course, il refait un tête-à-queue qui l'amène à 17 secondes, qu'il rattrape jamais alors qu'il est pourtant dans le rythme. Donc voilà, c'est un peu dommage. En plus, la stratégie, ils ont basculé en début de course sur une stratégie à 4 arrêts. Voilà, c'est un peu décevant, mais il fait quand même une course très solide et faudra inévitablement compter avec lui sur la fin de saison, ça c'est certain.
Pour des victoires, mais est-ce qu'il fait pas aussi la gueule parce qu'il dit que là, vraiment définitivement, il y a plus de chance pour le championnat?
Il n'y en avait pas tellement plus avant.
Il n'y en avait pas tellement plus, non, mais...
Puis je pense aussi qu'il est peut-être plus déçu par sa course que par le championnat. Je pense que ce qu'il déçoit surtout, c'est de se dire qu'il fait une super course, qu'il n'a pas ménagé ses efforts, que la course, il fait un podium et qu'il aurait peut-être pu espérer peut-être un peu mieux avec une stratégie plus conforme. Donc c'est peut-être ça pour ça aussi qu'il n'est pas content sur le podium. Maintenant, je pense que le championnat, il se faisait plus vraiment d'illusions et que, contrairement par exemple à Lewis Hamilton qui, d'un Grand Prix sur l'autre, dit « Ah oui, le championnat, on le joue plus. » Puis après « Ah bah oui, le championnat, on va le rejouer. » Puis on le joue plus. Lui, Alonso, il est entre guillemets jamais vraiment revenu sur le fait que le championnat, il le jouait plus.
Et toi, Globen, tu veux rajouter quelque chose sur la course d'Alonso?
Non, je pense que c'était bien bon résumé.
Ah, merci Globen. C'est vrai que souvent je me dis, mais qu'est-ce que je résume bien?
Ah oui.
Mais c'est vrai, tu résumes bien. Alors on va passer au deuxième, qui est sans doute le grand perdant de la course. Il a marqué 725 points. Sans surprise, c'est un pilote McLaren.
Hein. Oui.
Mais c'est pas le triathlète, c'est le noir. C'est Lewis Hamilton.
C'est vrai. Quelqu'un qui découvre l'émission en cours de route pourrait être choqué par ce que tu viens de dire. C'est dit. Alors bien sûr, vous écoutez le SAV du Grand Prix de Monaco. Hein.
Bien sûr. Mais écoute, n'oublie pas, je te citerai Patrick Timsit dans un de ses sketchs qui explique qu'il y a 20% de gens racistes, hein, et qu'on ne peut pas se permettre, hein, d'ignorer 20% de notre auditoire. Voilà.
Oui, mais je dis, ce n'est pas ce genre de public, mais je veux pas que... Non, je suis pas d'accord. je respecte les idées de chacun, mais on va quand même pas non plus admettre du contenu raciste dans une émission pour flatter une partie de nos auditeurs.
Non, plus sérieusement, il l'avait dans les mains, j'ai envie de dire, cette victoire. Il fait une super qualif, il manque la qualif, la pole d'un cheveu. Début de course, c'est même pas doublé, il double comme une Lamborghini doublerait une Twingo, j'ai envie de dire. Et malheureusement, il y a deux erreurs en fait.
Ouais.
Pas l'oublier. Il y a d'abord l'erreur des pneus. Donc bon, il fait le choix de l'intermédiaire, ça passe pas.
Il y a même trois erreurs.
Il y a les pneus. Il y a donc ce tête à queue où en même temps, il a essayé de pas perdre de temps. Hein.
Mais c'est là où il y a deux erreurs en une seule. C'est-à-dire que la première erreur, d'abord, c'est de partir à la faute sur le tête à queue. Et la deuxième, c'est de repartir comme un malpropre comme il est parti.
Voilà.
Et donc, du coup, au total, ça fait trois erreurs parce que d'abord, il perd du temps avec le tête à queue. En repartant, il repère du temps parce qu'il a un drive-through, il perd 13 secondes en passant par les stands. En plus, il y a aussi l'erreur des pneus qui l'oblige un peu à prendre une stratégie, de prendre des risques là où peut-être qu'il aurait peut-être pas été obligé d'en prendre s'il n'y avait pas eu le tête à queue avant.
Bah, ce qui est étonnant même, c'est qu'il était, pas plus conservateur en fait, qu'il ait essayé les intermédiaires alors qu'il était en tête, alors qu'il gérait très très bien la course. C'est étonnant qu'il ait pas été... Bon, en même temps, on peut saluer le fait qu'il ait tenté un coup, mais c'est étonnant que justement qu'il ait pas été peut-être plus conservateur.
Mais je pense que c'est aussi l'une des caractéristiques de McLaren, c'est que McLaren, ils ont dit que c'était leur décision à eux, que c'est eux qui avaient fait le choix. Bon, même si je pars du principe que quand tu t'appelles Lewis Hamilton, que t'es champion du monde, si t'es pas d'accord avec les conditions
de piste,
tu le dis et t'as quand même moyen de faire pression. C'est un peu la différence qu'il y a aussi chez McLaren. Pourquoi est-ce que Button s'en sort mieux dans ces conditions-là? Je pense que McLaren a voulu mettre ses œufs dans deux paniers différents. Vu qu'ils étaient de toute façon tous les deux devant, ils allaient garder une voiture devant quoi qu'il arrive. Et ils ont voulu mettre leurs œufs dans des paniers différents en se disant si c'est pas l'un, ça sera l'autre. Et le problème, c'est que dans ces conditions-là, c'est plus Button qui a l'ascendant parce que Button il prend la décision. C'est lui qui dit moi je vais rester en pneus tendres. Et donc du coup Hamilton est resté avec les pneus intermédiaires. Parce que je pense qu'il a pas la même prise de décision, il est trop docile par rapport à son équipe, il écoute trop ce que lui conseille son équipe, là où peut-être Button se distingue un peu plus.
À noter Hamilton, donc, que j'ai mis deuxième, et Dino, tu l'as mis troisième, Globen, tu l'as mis combien Hamilton?
Je l'ai dit.
Oui, c'est vrai que moi je l'ai ton classement, je pensais que tu l'avais envoyé à Shinji, mais moi je l'ai.
Non, je l'ai mis cinquième.
Ah ouais, quand même.
Non, mais moi, de toute façon...
J'adore les mecs qui se disent... Non, mais moi, de toute façon, Hamilton. Je crois d'ailleurs que sur Twitter, t'étais soulagé qu'il ait fait une erreur.
Oui.
Ça t'évitait de le mettre premier.
Je me demande si j'ai déjà fait de le mettre premier. Pas sûr.
Mais après, c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai réfléchi par rapport à Vettel. Il a été un temps deuxième, puis après, j'ai laissé passer Vettel devant. Parce que, d'abord, je trouve qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs ce week-end. J'ai envie de dire, il y en a certains qui ont descendu Vettel parce qu'il faisait des courses identiques en début de saison. Il y a des courses où Vettel, prenait 8 secondes en 5 tours. Hamilton, il a pris 8 secondes en 5 tours. Voilà, je trouve qu'il a fait une course bonne, mais c'est aussi une manière de dire aux autres, vous avez vu, vous avez critiqué Vettel en début de saison. Là, c'est finalement à peu près la même course qu'on a eue, sauf que lui, il s'est planté à la fin de la course. Mais globalement, on était parti sur la même course avec Hamilton qui était devant, et ça aurait été tout aussi passionnant pour la tête de course que lorsque c'est Vettel. Donc.
Dans ce cas-là, passons au premier du top 10.
Et voilà, forcément... on a qu'à remettre directement le tout ce qu'on a pu dire au Canada, on le remet là.
Voilà, c'est à peu près voilà.
Derrière, on demande à Globen ce qu'il veut en dire et puis c'est bon.
Donc Button qui marque 847 points. Voilà. En même temps, c'est vrai que on a l'impression qu'il ne peut gagner que sur ce genre de course. Hein. Depuis 2 ans, il ne gagne que sur ce type de course. Quasiment. D'ailleurs, ils l'ont fait remarquer. C'est Lionel Frassin qui l'a fait remarquer. Hein, quasiment la moitié de ses courses. Donc en gros, sauf celle de 2009. Il les a gagnés, sous la pluie.
Il retire Brown, il n'y a quasiment que ça, quoi.
Que ça, voilà. Non, splendide. Bon choix de mettre les softs, de ne pas mettre les intermédiaires. que dire, quoi.
C'est clairement là que la course aussi, c'est là, pour moi, le tournant de la course, c'est ce moment-là. C'est le moment où il passe les softs, où Hamilton est en super soft, depuis quelques tours déjà, où il passe les softs et il fait des temps mieux qu'Hamilton. Du coup, il lui met la pression, il force Hamilton à attaquer un peu plus. Comme Hamilton attaque un peu plus, il part à la faute. Donc voilà, c'est à ce moment-là que ça se fait, c'est sur le choix des softs. Mais je trouve pas que ce soit un pilote extraordinaire sous la pluie, mais c'est un pilote qui sait très bien profiter des conditions. Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, c'est un pilote de contre. Voilà, quand il faut prendre des choix, il est capable de prendre le ballon et d'aller au but et ça rentre.
Non. Et puis alors, en plus, c'est vrai que c'est quand même un Grand Prix un petit peu particulier, hein, pour Button. D'ailleurs, on a vu les images de la petite fête chez McLaren, hein, où il y avait Alonso, où il y avait Frank Williams, avec un beau gâteau avec marqué 200 dessus.
Et c'est là aussi on voit quand même le personnage aussi, c'est que quand on fait une fête pour lui, il y a pas que les mecs de l'équipe, je crois qu'ils ont fait les 30 ans d'Alonso. Ils ont montré à dimanche fin là.
Ah oui.
Il y a que du rouge, il y a que les mecs de Ferrari,
c'est vraiment genre photo officielle et tout ça. Voilà. Alors que là, c'était un gâteau.
Même si chez McLaren, ils n'ont pas hésité à inviter quasiment la moitié paddock. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa.
200 Grand Prix, c'est le 11e pilote à atteindre ce chiffre. Je crois 11 ou 12. Alors par contre, je crois que c'est seulement le 3e. Alors je sais pas s'il va y avoir un article sur ça.
Il y en a un qui est prévu. Il y a la chronique que vous avez lue d'ailleurs, normalement.
Vous avez lue.
Puisqu'elle est publiée après qu'on mette l'émission en ligne.
Je crois que par contre, c'est que le 3e a gagné une course.
Après les 200.
Après ces 200, voilà.
Alors je crois, sans me tromper.
Il y a Schumi et Barrichello.
Il y a pas 13.
Je suis pas sûr, justement.
Sur la fin, pas 13 chez Williams.
Regardez. De toute façon, même si c'est dit dans l'article, a priori, vous l'avez lu, donc c'est pas grave, nous, on le dit.
Oui, voilà. Là, c'est juste Shinji qui ira travailler plus tard demain matin.
Pas 13. Alors, sa dernière victoire. Japon 92. Ah oui, c'est vrai que oui, sur la fin.
Ouais, je crois qu'ils sont 5-6 peut-être.
Oui, t'as raison, il est au 241e, il a gagné à son 241e Grand Prix. Mais oui, ils doivent être que, ouais, 3, 4, pas beaucoup plus, hein. Voilà, il y a Button, il y a Patrel, il y a Schumi, il y a Barrichello, il doit pas y en avoir beaucoup plus.
Alors du coup, hein, qui a dit qu'il voulait passer le cap des 200? C'est Lewis Hamilton. Qui, en plus de vouloir être 3 fois champion du monde, veut passer le cap des 200. Oui, non, mais arrête de te poser cette question.
C'est bon.
On sait que tu les feras, les 200 Grand Prix, non, c'est bon. Et avec... Donc ça aussi, ça se banalise en plus, donc.
Bah oui, voilà. C'est... Comme toujours, cette image sympa de Button qui va voir son équipe, hein, à la fin de la course.
T'es obligé de faire tout le tour parce que.
Et bah d'ailleurs, justement, ça va être mon drive four.
Oh non.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
C'est un petit drive-thru, mais en effet, d'ailleurs c'est les commentateurs qui l'ont signalé, tu l'as dit, il a été obligé de faire le tour. Alors, il y a encore quelques temps, on va dire, autour de ce garage où il y a les trois premiers, t'avais directement les équipes. C'est vrai que depuis quelques temps, il me semble que c'est pas la première fois en Hongrie, ils ont réduit la zone où il y a les voitures, et en fait, les équipes ne collent plus directement. Donc, alors, nous qui nous sommes pleins, alors, c'est vrai que, déjà, faut qu'ils rentrent tout de suite, ils peuvent pas montrer de drapeau, ils peuvent pas faire de donuts, ils peuvent pas faire de burn-out. Et alors, en plus, quand ils se garent, c'est limite, on vous prend, allez, faites le podium, allez, on se presse.
Mais en plus, c'est le paradoxe, c'est que alors qu'on fait tout pour rapprocher les pilotes et les écuries des fans,
bah on rapproche même pas les pilotes des écuries.
Voilà, on éloigne les pilotes de leurs mécanos. Tout ça pour faire quoi? Bah je sais pas, pour cacher les mécanos à la télévision ou un truc dans le genre. C'est absolument incroyable, quoi.
Alors que c'est toujours des images super sympas de voir le pilote avec son équipe dans la joie. Non, c'est un tout petit drive-thru, mais ça m'a énervé quand même.
Alors je suis content parce que du coup ça me permet de placer une remarque que je voulais faire mais je savais pas trop où mettre. Comme tu parles d'images plutôt sympas, moi je voulais revenir sur l'image du drive-thru de Lewis Hamilton.
Oui. Et l'image de à l'écran.
Mais et j'ai beaucoup aimé c'est l'image de son frère qui est sorti dans la pit lane,
qui n'a rien dit. Image.
n'a pas fait le signe, qui a juste, c'est juste la présence de son frère dans la pit lane qui est juste là pour rassurer. Voilà, c'est même pas une opinion pour dire comme ils l'ont dit à la télévision, je te comprends, genre le mec, ouais, t'es vénère, je te comprends, c'est injuste, etc. Non, je pense que c'est juste, voilà, c'est une manière entre frangins de se dire, voilà, écoute.
Bah, d'une certaine façon, c'est ça, mais j'ai envie de dire, il y a même pas besoin d'expliquer.
Bon, dans ce qu'ils disaient les commentaires, c'est qu'on avait un peu l'impression que c'était solidarité entre frères contre la FIA et compagnie.
Non,
c'est juste, voilà, c'est
le soutien d'un frère, voilà, qui sent aussi que voilà ça part un peu en quenouille, j'ai envie de dire, voilà, il est là. Non, très très belle image, oui, t'as raison.
Et il y avait aussi une chose que j'ai bien aimé, c'est les paroles de Jenson Button quand on lui a parlé de son 200e Grand Prix. Et tout le monde a un peu revenu sur les sacrifices qu'a fait son père pour lui permettre de faire sa carrière. Et que Button a dit, oui, alors moi j'ai fait 200 Grand Prix.
Oui.
Mon père en a fait 199, comme quoi vous voyez que quand ils disent qu'ils font tout pour qu'on y arrive, c'est pas tout le temps la vérité.
Oui, en plus, il dit après, genre, oui, il en a raté une, c'est quand même pas bon supporter.
Non, voilà, moi, c'est...
Sinon, de l'Aubaine, tu peux peut-être dire quelque chose sur la course de Button?
Pas particulièrement, non.
Il est énorme, Globen, ce soir.
Mais Globen, ce qui est génial, c'est que Globen, c'est l'invité idéal. C'est le mec, je sais que je vais pas le couper.
Ah bah non.
Merci, Globen.
De rien.
Et on va passer au classement, dans ce cas. À moins que... Non, Dino.
Non, tu me connais, je suis dit, non. Me donne pas la parole, tu sais que je vais la prendre.
Allez. Donc, en tête du classement du SAV, comme d'habitude, c'est Vettel, avec seulement 197 points. On est dur, hein, avec Vettel, hein.
Oh là là.
Hamilton est deuxième avec 157 points. Alonso, troisième, 153. À noter, Button remonte à la quatrième place avec 144 points. Chez les constructeurs, Red Bull a 337 points. McLaren, 301. Plus serré. Ferrari, 223. À noter que Mercedes maintenant est bien devant, hein, parce qu'ils ont 90 points et Lotus Renault 61 points seulement dans l'autre classement. Alors attention, il a 234 points Sébastien Vettel devant Mark Webber 149. Comme on l'a dit, il regagne de l'avance, hein, 85 points, et devant Lewis Hamilton 146, Fernando Alonso est quatrième avec 145 et Jenson Button 134. À noter que après l'Allemagne, mathématiquement, tous les pilotes pouvaient encore être champions du monde. Désormais, après la Hongrie, eh bien, ils ne sont plus que 8. Hein. Donc oui, Nick Heidfeld, mathématiquement, peut encore être champion du monde. Bon, si ça arrive...
C'est pour 2 points. Enfin, c'est ex-aequo. Hein.
Ah, oui, si ça arrive, je vous jure que ce championnat-là, on s'en souviendra pendant les 30 prochaines années. Hein.
Ça, c'est sûr.
D'ailleurs, je pense que, oui, dès la Belgique, ils sont que... Ouais, allez, 6. Parce que même Rosberg, il a 40 points, ça va sans doute passer à la trappe.
Faut justement signaler, tiens, vu que t'en parles, l'initiative de StatF1, bon, c'est pas un site partenaire, mais c'est vrai que c'est un site qu'on aime tous un peu bien, qui a décidé dans la page 2011 de justement mettre une ligne pour indiquer les pilotes qui sont mathématiquement encore en course et ceux qui ne le sont plus.
Ah, c'est bien.
Sur les classements, donc je trouvais ça assez sympa.
C'est tout bête, et c'est bien, ouais, c'est clair, moi. Non, c'est bien. Chez les constructeurs, donc Red Bull Renault 383, McLaren 280 et Ferrari 215. Et là, c'est pareil, donc ils sont plus que 5. Hein. Donc qui sait, peut-être que Renault sera champion du monde des constructeurs. Et là encore, c'est pareil. Hein. Si ça arrive, waouh.
Et puis c'est mal parti, hein. Ils ont aucun point.
Oh bah là, oui. Pas vraiment dans une spirale très ascendante chez Lotus Renault Grand Prix. On va passer au fait marquant.
Oula.
Eh oui. Oula.
Alors, je sais que moi, quand j'ai voté, c'était serré.
Ah oui, quand même.
Donc j'espère que ça s'est desserré en ma faveur. C'est-à-dire que la famille de Steph Corr a arrêté de voter.
Vous avez été 46 votants. On vous remercie. De même qu'on remercie tous ceux qui ont voté pour le top 10. Donc quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne? Est arrivé 3e avec 7 votes. Hein, mais en même temps, je m'en doutais un petit peu.
Arrête.
Ce week-end, enfin, non, mais je me doutais que c'était un peu pourri. Enfin, que ça gagnerait pas. J'aurais aimé que ça passe mieux.
Tu l'avais fait exprès?
Non, je pensais que ça serait mieux. Là, c'est vraiment pas terrible. Parce que quitte à être dernier, autant l'être quand même avec un joli score. Là, 7 votes.
Franchement, Globen, toi, quand tu as vu le sondage, est-ce que tu as pensé que c'était moi ou pas qui avait mis ça?
Non, pas du tout.
Non. Ah, ça va, ça me rassure. Parce que je me suis dit, ça, c'est le genre de truc, les gens, ils vont penser que c'est moi, et ils vont pas du tout voter pour. Et voilà.
Mais non, ils ont pas voté pour non plus, hein, tu vois. Voilà. Est arrivé deuxième, la mauvaise course de Vettel, 39,13%, 18 votes. C'était qui? C'était toi ou c'était Steph Corr? C'était toi?
Non, c'était Steph Corr, c'est la phrase qui donne Philippe.
21 votes, 45,65%, 3,2 secondes qui donne la victoire à Hamilton. Alors, qu'est-ce que je vais mettre J'ai envie de mettre un truc original quand même.
C'est vrai que tu fais rarement dans l'originalité, tu dis, hein.
Ah non, mais...
À l'hiver en plein été, c'était pas original, c'est vrai.
Vu quand même que l'acteur de Button, c'est quand même pas un truc super original, ça arrive quand même, c'est quand même pas le truc qui arrive jamais. Oh, j'ai quand même envie de dire Hetfeld qui met le feu à la course.
Oh, c'est beau.
Ouais, je vais mettre ça. Ensuite, c'est à toi, Dino.
Alors moi, je suis lâche.
Tu es lâche, oui,
j'abandonne toutes mes conceptions. Je vais le formuler ainsi. Ce sera, je ne me suis pas endormi devant le Grand Prix de Hongrie.
Oh, c'est lâche.
C'est super lâche. Mais je sais que ça risque de faire du chiffre.
Donc, je ne me suis pas endormi cette année au Grand Prix de Hongrie, hein. C'est bien ça?
Voilà, ou devant le Grand Prix de Hongrie, c'est très bien. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître et il y a plein de gens qui vont voter pour.
Et alors, toi, de l'aubaine?
Je vais faire dans l'original, je vais dire la moitié du Grand Prix sans publicité.
Ça, tu vois, c'est le genre de truc qui est tellement pourri.
Ah non. C'est très populiste, mais...
Oui. La moitié du Grand Prix sans publicité. Avec une répartition de votes, j'ai peut-être ma chance, finalement. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2011? Nous vous proposons Hetfeld qui met le feu à la course. Ou bien, je ne me suis pas endormi cette année devant le Grand Prix de Hongrie.
Oh non, tu aurais pu faire court.
Non, c'est ce que t'as voulu mettre.
J'ai dit, arrête. J'ai dit, je ne me suis pas endormi devant le Grand Prix de Hongrie. T'as rajouté cette année.
Ah bah...
Là, tu me forces à aller encore plus contre nature.
Bon, d'accord, je ne me suis pas endormi devant le Grand Prix de Hongrie. T'es content?
Ah, parfait, merci.
Voilà. Et donc, en troisième choix, la moitié du Grand Prix sans publicité. Donc, notez bien quand même un deux choix bien pourri et au moins un troisième choix qui, certes, ne parle pas du vainqueur, mais qui parle d'un truc qui s'est passé pendant la course.
Oh, ça c'est barré. D'accord, je suis d'accord, le choix de Loben est pourri, mais quand même, le mien, il parle de la course.
Ah non, il est pas pourri.
Allez, on va passer au drive-thru. Si de l'aubaine tu en as un, parce que moi et Dino on en a sorti un.
J'en avais même trois.
Oh bah dis donc.
quatre.
Il a tout prévu en triple exemplaire aujourd'hui. On va voir. Attention.
C'est-à-dire qu'il parle pas, mais quand il parle, voilà, c'est fou.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors, je sais plus pourquoi, mais j'ai mis un drive sur la Steph Core.
Ah.
Alors, j'avais la mauvaise gestion par les commissaires de l'accident d'Heidfeld. Enfin, l'accident.
Oui, c'est vrai que...
C'était vraiment bien raté.
Pas envoyer la safety car, c'est un scandale, quoi.
Ah, puis en plus, comme il dit, hein, si tu la sors pas maintenant, si tu la sors pas de suite, tu peux plus.
Oui, non, voilà, non, c'est-à-dire que, moi, honnêtement, c'était avant que je parle de Weber, c'était sur ma feuille, c'est ce que j'ai écrit comme drive-thru. C'est d'abord la gestion, le fait de pas avoir d'envoyer la safety car. Voilà, il y a une voiture qui est en feu sur la piste, moi, je comprends pas. En plus, on l'a fait rentrer au moment où il y avait Vettel qui passe, ça peut être extrêmement dangereux.
Ça l'a gêné.
Ça l'a gêné, et en plus, on se rappelle l'an dernier, la manœuvre de Schumacher sur Barrichello qui se finit sur la sortie de la voie des stands, donc ça peut être super dangereux à cet endroit-là. Et puis, même globalement, ça, c'est-à-dire sur même le principe, c'est déjà les échappements ont déjà provoqué ce genre d'incendie un peu plus tôt dans la saison en Espagne. Quand on voit que la FIA, veut réglementer, juste parce qu'il y a une écurie qui domine, soi-disant en inventant des raisons de sécurité parce que les voitures passent plus vite en courbe, là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger qui concerne le pilote, les commissaires et les gens qui se trouvent dans la pit lane. Et là, la FIA...
Donc ce pauvre commissaire blessé qui boitait. Apparemment, il n'a rien eu de grave, hein, mais quand même.
Donc, alors, j'avais un article écrit par Dino.
Oh merde.
Sur le calendrier 2012 et l'inflexibilité de Bernie Ecclestone face aux équipes. Qui dit que en gros c'est lui qui fait le calendrier et que les équipes si elles veulent venir elles viennent et tant pis.
Ah, c'est contre Bernie, c'est pas contre moi.
Ah non, bah non.
Ah, ça va. Ah, j'ai peur.
Bah ça va me faire un cinquième.
Merde.
Non, mais voilà, donc je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule de tout le monde, quoi. Bon, et puis j'avais la gestion un peu confuse de LRGP autour du Kitefeld. Donc on l'engueule pas mal, hein. Et puis finalement, bah, il se passe rien. Rien de particulier, quoi. Ils mettent Senna, mais sans trop y croire. Bon, ça paraît un peu...
Mais est-ce qu'ils attendent pas, entre guillemets, l'erreur irréfutable?
Ils sont pas un peu coincés
un peu
par
dommage,
les contrats,
quoi.
En fait. C'est ce qu'ils attendent, bien sûr, c'est ce qu'ils attendent.
Et sinon?
Non, mais sinon, ça va suffire, je pense.
Ça, c'est bien, voilà, c'est un beau paquet de drive-through.
Non, mais ce qui est formidable avec Global, c'est qu'il arrive à te faire 4 drive-through, mais en même temps, il leur dit pas plus. Moi, c'est là où on voit les personnalités différentes. C'est que moi, quand je fais un drive-through, j'en parle pendant 3 heures, je suis énervé. Non, Global, voilà, c'est, il a un drive-through, voilà, il dit il est pas content, et voilà. Non mais sérieusement, je t'admire Globen. On est deux personnalités différentes et voilà, quand je vois quelqu'un comme toi, je me dis mais comment c'est possible, comment tu fais?
Allez, bah dans ce cas, on va passer à la suite et on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors le concours Top Opposition.
Oui.
La question de la semaine dernière, et là je peux dire semaine dernière sans me gourer, puisque c'était bien la semaine dernière, était proposée par Steve, qui vous demandait comment s'appelle le parc aquatique situé à côté du circuit. La réponse est Shinji.
Alors, si je me souviens bien de ce que tu nous as dit la semaine dernière, c'était pas un truc genre Ungaro Aquapark, Aquatic Park?
Non, le nom qu'il nous a envoyé, c'est Mogyoroard Aquarena.
Ah oui.
Voilà. Bon, sachant que Mogyoroard, bah, c'est Magyar, donc c'est la Hongrie, donc c'est l'Aquarena Park. Alors, on a eu 3 réponses, et honnêtement, je vais dire les réponses parce que j'adore le raisonnement des gens. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui les dis. Donc, on a eu une première réponse, alors je vous lis le mail, hein, 2 réponses. La réponse est le Visipark Aquarena, sachant que grâce à Google Traduction, je sais que Visipark veut dire parc aquatique. Je serai donc très vigilant sur le fait que Visipark n'est pas le nom du parc, donc c'est Aquarena. Mais raisonnement. Attention, il y a le deuxième, c'est plus fort. En cherchant sur Google Maps, la route qui mène à ce parc s'appelle Visipark Utka. Et donc j'ai failli répondre Visipark. Mais en tapant ce nom de rue sur Google, on tombe sur le site web du parc qui s'appelle Aquarena. D'ailleurs, je te conseille ce site web, hein, www.aquarena.hu. Le diaporama de photos étant très sympathique, je confirme. On y trouve aussi une webcam du parc où l'on peut...
Si quelqu'un dit que c'est qu'il y a de la meuf.
Tout à fait. C'est... On y trouve aussi une webcam du parc où on peut actuellement constater qu'il fait plutôt gris en Hongrie. Voilà, donc quand même, il est passé par Google Maps. Et la troisième est pas mal non plus, puisque la réponse est Aquarena. Et derrière, j'ai source http://map.google.fr/map:q=Aquarena et IE égale UTF-8 et LL égale... Je peux faire toute l'adresse comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les 3 réponses. Voilà, donc ils ont tous donné la bonne réponse, hein, c'était pas Visipark.
Ah oui, c'est bien comme diaporama.
Et donc, je te propose les questions, Shinji. Première question, donnez le nom du virage 15 du circuit de Spa.
D'accord.
Deuxième question, quelle est approximativement, mais pas trop, la longueur du trajet entre le Hungaroring et le circuit de Spa en passant par Milton Keynes? Dans la catégorie, on a demandé des questions bien chiantes pour vous occuper pendant 4 semaines. Bah,
celle-là, ouais.
Et la dernière question, c'est combien de pilotes français ont remporté le Grand Prix de Belgique? Attention, il y a un piège.
Globen me laisse un message, c'est ce que je suis en train de regarder. Et j'ai l'impression qu'en effet, je vais pas penser par Milton Keynes et tout ça, parce que le problème c'est qu'elle est beaucoup trop floue. C'est-à-dire que, est-ce qu'on prend enfin voilà.
Oui, c'est... il le dit approximativement, mais pas trop.
Ouais.
Bah, je pense que c'est fun d'avoir des réponses différentes.
Donc il y a ça et les pilotes français au Grand Prix de Belgique. Alors écoute, c'est quoi au final, vu que les gens vont avoir 3 semaines, et t'as raison, on va leur demander, en effet, donc la distance...
Hein. Donc,
vous allez bien vous amuser pendant 3 semaines. Donc la distance entre le Hungaroring et Spa-Francorchamps, mais attention, en passant par Milton Keynes.
Ouais, et on veut une réponse, attention, là je lirai les réponses et on veut quelque chose d'original.
Ah oui, hein, faut nous expliquer comment vous avez trouvé le chiffre.
Voilà.
Et donc, juste pour le plaisir, est-ce qu'on peut pas... Parce que les 2 autres questions m'interpellent quand même énormément.
D'abord, on va donner le nom du vainqueur.
Oui.
Enfin, on va le laisser. Lui, s'auto arrive vainqueur. Puisque oui, Globel, c'est toi qui gagne.
Non, mais en même
c'est
temps,
ma question.
Ta question était tellement brillante.
Oh, merci. J'ai trouvé en 5 minutes. Hein.
En fait, la semaine dernière, on avait dit aux gens, voilà, essayez de trouver une question qui tienne, voilà, pendant 3 semaines, que les gens aient le temps de chercher pendant 3 semaines. Là, c'est ça, là, c'est très bien. Et alors, pour le coup, par exemple, le coup des pilotes français au Grand Prix de Belgique.
Alors ça, c'était une question proposée par Gus Gus.
Alors, à moins qu'ils prennent compte les Grands Prix de Belgique avant la F1.
Mais c'est ça, il prend les noms des Grands Prix. Il dit, voilà, Grand Prix de Belgique, il précise pas où, quand, comment. Donc c'est tous les Grands Prix de Belgique, y compris ceux qui avant la Formule 1. Et notamment, ça lui a permis de découvrir certains pilotes, dont Louis Rosier, dont on a parlé.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques Français, en effet, qui...
Et enfin, on a la dernière question, qui était la question du virage 5 du circuit du virage 15 du circuit de Spa, qui était une question proposée par Zilex. En fait, c'est le virage Paul Frère, anciennement Stavelot.
Et Stavelot, c'est pas le 16?
J'en sais rien.
Sur les plans, justement, le 16, c'est Stavelot. En fait, t'as Fagne, c'est 13-14, et t'as Stavelot, 16.
Ouais, la chicane rapide, Stavelot, c'est celui qui est avant la grande pleine charge qui mène jusqu'à l'arrêt de bus.
Oui, donc toute la grande pleine charge, c'est Blanchimont.
Celui qui rejoint la...
Paul Frère, c'est juste avant.
C'est la route qui mène vers Stavelot.
Voilà, exactement. Par contre, sur le plan qu'il y a là, il y a un décalage parce que... En fait, sur les autres plans, là où c'est marqué 14, en fait, c'est marqué. Les autres, ils indiquent 15. Et en fait, ils indiquent Stavelot comme le virage 16. Et Paul Frère, en fait, c'est après. Mais entre les deux, oui, apparemment, il n'y a pas de nom.
Et donc, pour pouvoir participer à notre concours, vous avez, alors là, vous avez le temps, hein, vous avez jusqu'au 29 août, normalement, si ma mémoire est bonne. Voilà, vous nous envoyez un message avec, bien évidemment, la réponse à cette question, quelle est approximativement, mais pas trop, la longueur du trajet entre le Hungaroring et le circuit de Spa, en passant par Milton Keynes. Voilà, donc d'abord, faut savoir ce que c'est que Milton Keynes.
Donc, n'oubliez pas, il y a un magnifique logiciel qui s'appelle Google Earth.
Oui. Voilà, ou à la limite, vous allez au Hungaroring, vous faites la route vous-même.
Vous prenez un mètre.
Vous vous arrêtez tous les deux mètres pour mesurer, vous savez, pour faire des marques. Et donc, pour répondre, hein, c'est soit par le formulaire du site fanf1.com, soit directement sur notre adresse savf1@yahoo.fr. Voilà, n'oubliez pas de nous poser une question pour le Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix d'Italie. Voilà, et de nous donner la réponse qui va avec la question, toujours relativement utile.
Alors sur ce, bah justement, on va se projeter dans un mois, parce que la pause est 3 semaines, mais finalement c'est quasiment dans un mois, le Grand Prix de Belgique. Et donc évidemment, quand on parle du prochain Grand Prix, c'est le tour du guest. Eh oui.
Bien, je vais devoir parler.
Qu'as-tu choisi, hein, pour...
Alors, les 7 bonnes raisons de ne pas y aller.
Ah, c'est bien.
C'est courageux.
Alors, première raison, c'est que on est en Belgique, certes, mais ça ne garantit pas que les pilotes vont se friter.
J'adore.
Ça là, elle est dans le top 5.
Deuxième raison, Vettel, ces derniers temps, il est pas très bon, et si vous êtes fan de Vettel, ben, il est pas à l'abri d'un petit coup de moule en Belgique.
Et de deux dans le top 5.
Alors, pour continuer dans le... Une un peu moins bien, je trouve. C'est que à Bruxelles, il y a l'Atomium, mais on sait pas qui c'est, Tom.
Ah, ça là, elle est numéro 1. Ça là, elle est numéro 1, mais dans le classement des plumes, elle est numéro 1.
C'est de l'humour belge.
Alors, je sais plus à combien j'en suis. 1, 2,
3. 3.
3. Bon, alors, quatrième, c'est que la télé, c'est bien mieux pour découvrir l'inverse du décor.
C'est spécial.
Cinquième, c'est que si vous voulez voir un toboggan, il y en a un au bout de votre rue. Oui, je sais, c'est...
Là, faut suivre.
Celle-là, on sent qu'elle est arrivée en disant, bon, moi, faut que j'entre dernière, merde.
Oui, en plus, c'est ma dernière. Parce que je l'ai pas faite dans la... Donc, ma sixième, c'est que si vous voulez voir un pays où il n'y a pas de gouvernement, bah, suivez de regarder la F1 à la télé.
C'est vrai.
Et enfin,
putain, parce qu'on reçoit un Belge, hein. Normalement, en Belgique, on reçoit un Belge, donc.
Oui.
Et ben, il va aimer la septième, puisque la septième bonne raison de ne pas aller en Belgique, c'est qu'il y a des Belges.
Non, c'était très bien.
Ah, c'était bien.
Cette bonne raison de ne pas aller en Belgique. D'ailleurs, ça m'a un petit peu dissuadé d'y aller.
Alors sinon.
Surtout à cause de l'atomium.
Ça, là, je la trouvais pas terrible en plus.
Ah non, mais moi tu sais, moi les trucs pas terribles, j'adore. Quand on ose faire un truc pas terrible, je trouve ça tellement beau que...
Alors sinon, cette course, donc elle va être dans un mois, Les équipes ont eu le temps de chercher de nouvelles choses, vont revenir fringantes, hein, de leurs deux semaines à Ibiza. Vos pronos.
Déjà pas Red Bull, c'est même si c'est pas forcément le pire des circuits pour elle. Je mettrai pas Red Bull, ça jouera pour moi entre McLaren et Ferrari, et je mettrai aller un petit billet sur Alonso. Tu viens, j'ai déjà mis un petit billet sur. Non, pas Alonso. Non, je vais pas mettre un billet sur Alonso. J'ai déjà fait pour la Hongrie. Je vais mettre Hamilton. Voilà, c'est Hamilton qui gagne.
Oh. Ne compte pas sur moi pour te suivre.
Moi, j'ai quand même envie de dire Vettel. Je sais pas. Je me dis s'il fait beau, s'il y a pas de souci, j'ai l'impression que le désespoir va retomber sur nous.
Très bon, j'adore.
Voilà, qu'on se dise tous, ouais, c'est bon, la deuxième partie, ça va être chouette. Et là, ils défoncent tout le monde.
Qui met 30 secondes. Ah ouais, alors, tu sais, c'est une vraie démonstration. Mais moi, je veux qu'il gagne, mais avec une vraie démonstration.
Ah ouais, avec une vraie démonstration, ouais, on est d'accord. Et toi, de Loben ?
Alors, moi, je pense que ça commence à faire un bout de temps qu'il a pas gagné. Et donc, je mettrai encore une pièce sur Vettel.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques grands prix, on pronostiquait même pas Vettel.
Non,
c'était gagné d'avance, sinon. Et là, maintenant, on pronostique parce que c'est un risque quand on
pronostique. C'est pas gagné, voilà. Et... sur ce, on arrive à la fin de l'émission. Merci, Loben.
Eh ben, merci à vous de m'avoir donné cette possibilité. Et ah, merci aux auditeurs qui écoutent jusque-là.
Bah, il y avait un petit peu de suspense dans cette émission. C'est va-t-il tenir jusqu'au bout ? Oui. Combien de mots va-t-il dire ? On lance les paris. Hein. Combien de mots va-t-il dire ?
Puis là, finalement, je crois que j'ai fini puisque on peut dire que c'est. Ah merde, j'étais déconnecté.
Il a réussi à me faire peur en plus.
Oui, c'est clair.
Non, mais voilà. J'ai dit voilà, tu peux enchaîner.
J'ai dit voilà.
Voilà. Comme d'habitude, hein, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite pour le coup un bon mois d'août, hein, puisqu'on va pas se retrouver. Alors, est-ce que l'émission spéciale sera avant le retour ? On ne sait pas. On ne fait pas l'émission, hein, donc.
Alors oui, voilà. Alors justement, profitons-en. Hein. Normalement, on va fêter nos 3 ans au mois de septembre. C'est début septembre normalement. Mmh. Mais bon, comme il y a plus de temps pour enregistrer pendant le mois d'août généralement, donc c'est généralement avant le Grand Prix Belgique qu'on l'a fait. Donc il y aura ça à retrouver sur le site du SAV de la F1. Là, on la mettra pas sur Fan F1 parce que c'est pas vraiment une émission sur la F1. C'est plus une émission pour la communauté du SAV, pour
voilà.
Bien l'émission, etc. C'est un moment où on peut se retrouver, donc.
C'est un voilà. Bonus, voilà. C'est.
Là, c'est un bonus, donc elle sera sur le site savf1.fr, tout comme vous pouvez retrouver sur, on le rappelle, hein, sur savf1.fr, le commentaire de
Driven.
Voilà, que vous semblez bien accueillir,
malgré notre grande surprise.
Voilà, donc ce sera su, c'est pas nous qui faisons l'émission, hein, on a un petit peu donné la responsabilité aux autres, donc on n'a pas de nouvelles.
On peut pas en dire plus, pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on sait.
Puis aussi pour vous lancer un petit défi pendant les vacances, voilà, c'est en écoutant la dernière émission dans le montage, je me suis dit tiens ça serait bien de faire ça, parce que notamment dans les projets qu'on avait discuté, on se disait avec Chidi tiens ça serait bien d'avoir une émission avec 150 personnes et puis nous trois, bon, voilà, ça faisait 153, et je me suis dit tiens si ça c'est dur à faire techniquement, demandez par exemple aux gens de réussir à ramener sur le groupe Facebook du SAV de la F1, sur la page du SAV de la F1, à réussir à ramener 153 personnes, ça serait génial. Donc voilà, on va vous lancer un petit peu le défi, essayer de ramener le plus de monde sur la page du SAV de la F1, voilà, pour essayer d'atteindre le chiffre 153, et voilà.
Le 153e, on lui fait la fête, hein, attention.
Oui,
voilà.
Parce que bon, les places de guest, on les file quand même super facilement.
Oui, voilà. C'est généreux, t'en sortais de là.
Voilà.
D'ailleurs, merci.
On rappelle que nous cherchons, hein. Là, on a eu Globen, ça nous fait plaisir de t'avoir parce que tu fais partie des auditeurs qui nous écoutent depuis très longtemps, qui en plus on a collaboré ensemble, il y avait le tour Mécatech.
Ah bah oui.
Donc voilà, donc surtout si vous voulez participer à l'émission, hein, n'hésitez pas, envoyez-nous un message. On essaie toujours de s'arranger pour que ceux qui sont jamais passés passent en premier. Voilà, on petite pensée pour Bilo qui s'est proposé 2 fois et 2 fois en fait il est tombé sur quelqu'un qui venait pour la première fois. Donc voilà, c'est partie remise. Et je renouvelle mon appel. Tu es une fille. On te veut dans l'émission. On pense notamment à Maëlle, par exemple. Maëlle, quoi, t'es notre fan à nous. Enfin, t'es la fille qui te suit depuis des années. On aimerait t'avoir une émission un jour, quoi. Merde. Donc voilà, je sais pas, nous, il nous faut une fille. On sera gentil, promis.
Hein. Oui.
Et donc le 150, voilà, le 153e, on sait pas. Et voilà, on essaiera de marquer le coup pour le 153e fan. Mais voilà, si déjà on arrive à atteindre les 153 avant notre anniversaire, ça serait vraiment super.
Ça serait génial, ouais.
Voilà, sachant que là, on doit être à 19. 19. En relation, c'est sur la page le SAV de la F1, pas sur le groupe.
Oui.
Sachant que vous ne serez pas emmerdé vu que c'est une page qu'on ne met pas à jour. Enfin, voilà, y a rien dessus.
Ah oui, oui.
C'est juste, voilà, une page comme ça, mais bon, c'est pour le symbole.
Histoire de dire qu'on est sur Facebook.
Voilà.
Donc, sur ce, hein, comme je vous ai dit, bon mois d'août, hein, quand même. Je vais rajouter bon ramadan parce qu'on est le 1er août, c'est le début du oui. ramadan. On a peut-être des fans qui vont le pratiquer ou qui l'ont déjà même commencé. Donc, après tout, bon ramadan.
S'ils n'ont déjà pas fui avec ta blague de tout à l'heure.
Et comme d'habitude, eh bien, on se quitte sur ces quelques mots de poésie.
Oui, et c'est vraiment de la pure poésie. C'est une citation qui vient d'un poète contemporain qui s'appelle Charles Deleuze. Voilà. Et cette citation, je trouve, se prête plutôt bien à une course disputée sous la pluie puisque c'est « Qui sort de la jungle trouve les crocodiles ».